Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous avais dit quoi?
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est le RMC Fighter Club. On est début juin et l'UFC Freedom 250 de la Maison Blanche approche avec nous. Bien sûr, cet enjeu avec Cyril Gane qui va affronter Alex Pereira, c'est un enjeu XXL pour le MMA français. On va en parler, on va faire plein d'épisodes avec Baba, le pilier du RMC Fighter Club, pour vous présenter au mieux cet événement. Aujourd'hui, on va avoir un invité particulier, Baba.
Un invité plus que particulier, c'est un honneur toujours d'être en présence d'une légende, avec une légende, Aurélien Duarte. Salut Aurélien.
Salut Baba, je suis touché par le mot légende, ça me brusque toujours un peu, mais
c'est la vérité.
Je commence à accepter, merci.
C'est la vérité, donc ouais, pour une opposition qui devrait se passer la plupart du temps debout, on a choisi de ramener un vrai spécialiste, quelqu'un qui a vécu la chose, qui a vécu les grands combats. Ouais. Voilà, on va pouvoir en parler en long, en large, en travers.
Tu prends le mot légende, Aurélien, quand même, ça va, l'acceptes.
Ouais, je le prends, c'est poser cette fausse humilité, mais c'est vrai que c'est toujours touchant, parce qu'on reste que des êtres humains mortels et perfectibles, mais ouais, j'accepte de voir que j'ai fait des choses et les gens s'en souviennent. Et j'ai pu marquer peut-être en montant. Mais l'important pour moi, c'est surtout de continuer et puis que ça serve aux autres.
Ouais.
T'es une légende, voilà, t'as ta photo, t'es bien, t'as ton quart d'heure de gloire, mais si ça t'apporte que ça, si ça sert pas à la communauté et les autres, ça sert à rien.
Et justement, alors Aurélien, multiple champion en pied-point, en kickboxing, aussi en Muay Thai, bien entendu, entre 96 et 2006, je crois que tes gros titres, ils sont arrivés dans cette dizaine-là. Parle-nous juste rapidement de ce que tu fais aussi aujourd'hui, parce que t'as plein de casquettes, et notamment coach mental pour accompagner des boxeurs, mais aussi des sportifs qui sont dans d'autres disciplines.
Oui, et aussi 14 combats avec du sol. Hein. À l'époque, le Golden Trophy, c'était la lutte contact. Il y avait aussi le karaté Shidokan.
Ouais.
Donc il y avait différentes formes. J'ai fait 14 combats avec du sol. J'étais un des pionniers en France. Mmh. Et après, je suis retourné à mes amours, le pied-point. Et aujourd'hui, je m'efforce d'aider chacun à réveiller le champion qui dort en lui.
Voilà, c'est ce qui est mis un peu sur ta page Instagram. Tout le monde peut aller rejoindre Aurélien sur Instagram et voir effectivement ce que tu proposes avec du contenu. Et toujours avec un grand sourire. Parce que ça, qu'on ait croisé Aurélien il y a longtemps ou il y a peu de temps, il y a toujours le sourire, la bonne humeur et la positivité qui arrive. Donc ça fait plaisir aussi de pouvoir partager ça avec toi. Dernier truc, vous avez fait un Baba versus, il y a un moment ensemble.
Exactement.
Hein, donc vous connaissez.
C'était le deuxième épisode que j'ai fait
avant l'époque RMC Sport, avant l'ère RMC Sport.
Je me suis lancé tout seul avec mon téléphone, mon trépied. J'ai contacté Aurélien qui m'a répondu gentiment et avec plaisir. On s'est retrouvé à Station F, on l'a fait à l'arrache.
On a fini dans un couloir à côté de la fontaine d'eau.
Mais c'est aujourd'hui encore mon épisode préféré. Donc allez le checker, tapez Baba versus Aurélien Duarte et vous allez le trouver sur YouTube.
Tu sais que même ici chez RMC Sport, il y a un couloir et une fontaine d'eau à côté. Donc on est comme au début, comme à l'origine. Bon, en tout cas, on est content d'avoir Aurélien parce qu'à travers le Gane Pereira qui arrive, on va pouvoir parler de l'importance et de la place du pied-point dans les MMA, que ce soit techniquement ou historiquement. Combien de fois champion du monde, Aurélien, juste ?
7 fois.
7 fois champion du monde. Voilà, surtout en Muay Thai.
En kickboxing et puis une fois en karaté Shidokan, donc c'est avec du sol.
Du sol. Bon, c'est bien parce qu'on va aussi parler des différences entre les sports pied-point, parce qu'il y en a peut-être, et ça, j'ai envie d'avoir votre vision là-dessus, sur le kick. Parce que Alex Poatan, kicker, Cyril Gane, plutôt du mouet, donc les différences que ça peut apporter techniquement, une fois que ces garçons-là sont dans la cage. Je vous rappelle juste très rapidement que vous pouvez continuer à liker, à vous abonner, à commenter si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, ça fonctionne aussi. Et bien sûr, abonnez-vous aussi sur les plateformes de podcast parce qu'on ne publie pas forcément tous les épisodes sur YouTube, ça vous permet de pouvoir suivre. Donc mettez-vous des alertes, c'est aussi très important et continuez à nous donner de la force, ça nous aide énormément. Déjà les gars, on est donc il y a 5 semaines, on a 5 semaines qui nous séparent de maintenant, début juin, jusqu'à la fin de l'International Fight Week où il y aura Benoît Saint-Denis qui va combattre avec la carte énorme avec Conor McGregor notamment. Notamment, est-ce qu'il y a Faziam aussi qui va combattre entre-temps ? Est-ce que pour toi, Baba, on est dans le mois et demi le plus important de l'histoire du MMA français ? C'est quelque chose qu'on se demande à chaque fois, mais potentiellement demi-finale avant une ceinture pour Benoît Saint-Denis, et puis ceinture intérimaire potentiellement pour Cyril Gane qu'il avait déjà obtenu en 2021. Mais est-ce que ces deux combats-là représentent dans ce petit mouchoir, dans ce petit laps de temps, est-ce que ça représente le mois et demi le plus important de l'histoire du MMA français ?
Ça
dépendra des résultats peut-être.
Ouais, non, mais c'est une manière de voir les choses. Mais en fait, tu t'anticipes un peu ce que j'allais dire. Peut-être que tu me voyais venir, mais voilà, c'est vrai qu'on on donne pas mal d'étiquettes à certaines périodes où on dit que là, ça va être important, etc. Mais faut qu'on gagne. En fait, faut qu'on gagne. Donc, je te dis que la période la plus importante du MMA français, c'est quand on en aura un Français, qui sera en train, qui va être en train de disputer une ceinture de champion du monde à part entière, même si la ceinture intérim, elle est importante. Mais voilà. Ouais. Le jour où on en a un qui combat pour le titre, comme on l'a eu Cyril à un moment.
Il a déjà fait une ceinture intérimaire, je crois.
Ouais, il a remporté. Cyril Gane, ceinture intérimaire remportée contre Derrick Lewis en 2021. Et derrière, deux tentatives contre Ngannou et contre John Jones. À chaque fois, ça fait beaucoup de le dire, mais il a affronté ces deux légendes. Il a perdu. Et donc là, ce sera sa deuxième tentative pour la ceinture intérimaire. Et peut-être derrière que ça pourra donner une ceinture undisputed à l'UFC.
Voilà,
en
tout cas, on a eu Manon Fiorot aussi qui a combattu pour le titre, qui a perdu contre Valentina Shevchenko. Donc ces deux moments-là, pour moi, c'était les plus importants. Parce que là, on a accédé au Graal, même si on n'a pas réussi. Donc en attente du prochain. Mais c'est ultra important.
Ouais, et faut se rendre compte aussi pour Benoît Saint-Denis que ça représente de combattre sur la carte de Conor McGregor. Parce que ce sera le combat juste avant, comme main event, donc il va mettre sur les rails un petit peu Conor McGregor, et ça va être assez énorme. J'ai regardé d'ailleurs, je crois que McGregor n'a jamais combattu à l'UFC sur une carte où il y avait un Français. Donc j'ai vu qu'il y avait Nordine Taleb, donc franco-canadien un petit peu, qui a été sur une carte, mais il n'y a jamais un Français qui sinon a été en plus aussi bien placé sur une carte où il y a Conor. Donc l'enjeu est assez énorme pour Benoît Saint-Denis et pour la France du MMA. Donc on sera évidemment tous devant cet événement. Peut-être que toi aussi, Aurélien, juste ton rapport au MMA, est-ce que aujourd'hui tu le regardes? Est-ce que tu t'y intéresses? C'est quoi ton rapport au MMA aujourd'hui?
Je le regarde un petit peu. Moi, j'aime surtout le pied-point et la partie striking, parce que la partie sol, tout ce qui est soumission, clé, si tu ne pratiques pas, c'est dur à comprendre. C'est vraiment des échecs, c'est le moindre placement de pied. C'est très complexe. Hein. Donc, je suis plus sur le pied-point. Je regarde un peu les highlights, les combats. J'ai pas mal de potes qui sont fans et je suis les gros événements. Mais je reste quand même un amoureux du pied-point et du combat à distance.
Un amoureux du pied-point, un peu frustré par la place qui est en train de prendre le MMA en France, peut-être au détriment de certains événements pied-point ou...
Frustré,
tu relativises un petit peu ça.
J'ai passé ça, je suis très respectueux et très admiratif du MMA qui a volé la vedette avec la professionnalisation, avec des bourses qui permettent de vivre, avec des médias, des sponsors. Vous avez starifié les combattants enfin. Quoi. Ouais. Moi, je me rappelle, comme je le disais, je fais Bercy. Je descends de Bercy, je vais faire la queue à la Salpêtrière pour me faire soigner. Quoi. Et le lundi, j'ouvre le gymnase, tu vois. Donc, comment arriver sur le ring et sur le combat dans les meilleures conditions quand tu dois accumuler du travail, ta vie de famille, des choses comme ça. Donc là, je suis vraiment content que le MMA donne aux combattants la possibilité de vivre de leur métier, avoir une vraie présence, des interviews, un vrai suivi. Ouais. Et qu'aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas des puristes peuvent te citer Ngannou, Conor McGregor, comme ils te citeraient des footballeurs et des basketteurs. Alors qu'à mon époque, c'était quand même une niche, quoi, tu vois.
Qu'est-ce qui manquait à l'époque, du coup, les gars? C'était quoi? Parce qu'il y avait des chaînes de télé, il y avait Canal+, qui suivait beaucoup, Sami Khepchik organisait et qui, du coup, réussissait à faire de gros événements, à remplir Bercy. Ouais. Qu'est-ce qui manquait pour que, justement, cette, entre guillemets, starification puisse arriver aux combattants pied-point?
Je pense qu'il manquait, je vais mettre le doigt dessus, hein, l'éducation financière et la culture financière. Hein. C'est-à-dire que nous, on arrivait souvent issus des gens du peuple, quoi. Tu vois, on n'avait pas d'éducation financière. Nos parents prenaient un SMIG, un machin. Quand toi, tu prenais un SMIG sur un combat, même si tu avais fait un mois de travail, moi, je me rappelle, je n'ai pas de honte sur les chiffres. Je faisais entre 3 et 5 000 euros par mois avec tous mes combats, plus le boulot, les coachings. Donc, c'est enrichissant. Et en même temps, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait honte. On ne savait pas demander, on n'avait pas d'agent, on n'avait pas de directeur financier, on n'avait pas de manager, c'était très complexe. On se débrouillait nous-mêmes et je pense qu'on avait ce complexe de « ouais, c'est un sport dur, on galère ». Donc pour légitimer la galère, il ne faut pas prendre d'oseille. Quoi, hein. Donc tu vois, ça allait avec, quoi. C'était de la débrouille, du copinage. L'argent, c'était que la billetterie. J'ai fait des combats, moi, où j'apportais 5 000 euros à l'organisateur et ma bourse c'était 1 500, quoi, tu vois. J'avais vendu 5 000 de billets, quoi.
Baba, peut-être maintenant qu'on suit beaucoup le MMA, l'UFC, c'est quoi? C'est qu'il y a la structure UFC derrière qui permet de cadrer un petit peu tout ça aussi pour les combattants. Ça aide à faire une communication que les combattants n'ont pas forcément à faire au début. Et derrière, par contre, il faut suivre le jeu des réseaux sociaux, il faut suivre le jeu des conférences de presse, de jouer le jeu de l'UFC derrière. Mais qu'est-ce qui apporte ce que n'avaient pas les combattants de pied-point qui est en train de décrire Aurélien tout de suite?
Non, en dehors de ce qu'Aurélien a dit, on est dans un monde beaucoup plus connecté aujourd'hui. L'information voyage beaucoup, beaucoup plus vite. Le highlight, voyage beaucoup plus vite. Une vidéo virale, un KO. Alors que je peux t'assurer que ces mecs-là ont mis des KO qui deviendraient viraux aujourd'hui très facilement, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'époque qui fait que. Après, oui, t'as la locomotive UFC qui va attirer le fan parce que c'est la grosse marque, parce que tu le vois partout. Tu vas voyager, tu vas voir l'UFC. T'es en France, tu vois l'UFC. Il y a un diffuseur. Avant, il y avait Canal, certes, mais Canal, c'était une chaîne à péage, hein, je rappelle. RMC aussi, c'est sous abonnement, mais tout est complètement différent. Pourtant, les choses étaient faites. Aurélien, avec Danny Bill, ils ont fait un combat, ils ont fait ce que les gars du MMA font aujourd'hui. Les deux se sont appelés, on se sont dit, viens, on fait monter la sauce. Ils ont fait monter la sauce dans les magazines, sur Skyrock, tout ça. Et je lui disais, Aurélien, quand on a fait le versus, moi, je suis un élève de Danny Bill, je suis un petit frère de Danny Bill, donc moi, je le détestais. Parce qu'il avait fait monter la sauce et tout, et le combat était chez nous à Saint-Paul.
Bah, tu retournes ta veste, aujourd'hui, tu le traites de légende. Et voilà.
Ah, mais c'est une légende.
Je le détestais.
Je comprends qu'à l'époque, il te détestait.
Ah, je le détestais parce qu'ils ont fait monter la sauce, ça fonctionne. Et quand il monte, quand ouais. Il fait son walkout pour aller sur le ring, avec mes potes, on essaie de lui taper les chevilles, tu vois.
Il y en a qui vont taper les jambes. Hein,
il y en a deux, trois qui vont taper
les jambes. En même temps, normalement, vous aviez les chevilles solides. Les combattants Muay Thai, normalement, les chevilles, elles sont.
On a mis 6000 personnes. Au palais des sports de l'île des Vannes qui contient 4000 places. Il y avait des gens sur le
Cadre. Avec des rappeurs, des acteurs. Enfin, tu
ça,
vois,
c'est donc, des ouais, c'est des, ouais, c'est des trucs, ça, c'est fou. Il y a beaucoup de pieds-points qui peut produire ça, quand même. Parce que je me rappelle, pareil, la fin des années 2010, ce que moi j'ai connu, mais du coup, les Best of Siam, les trucs comme ça, c'était le service de sécu, les potes de Jean-Charles Skarbowski qui laissaient rentrer, vas-y, passe, toi, tu sais, ça débordait de partout. C'était, bon, ça avait son charme aussi.
Ça avait son charme. Ça manquait de professionnalisme.
Voilà, de structuration.
Je vois, par exemple, il y a peut-être quelque chose aussi, c'est que. Dans le Muay Thai, il y a ce côté respect, ce côté et qui va pas avec le show, ouais. Avec le trash talk. Donc peut-être que ça a déjoué. Et d'ailleurs avec Danny, on s'était appelé, on s'est dit viens Danny, on se chauffe respectueusement, mais viens on se chauffe quoi. Et ça avait attiré du monde. Donc je crois que peut-être aussi on avait pêché là-dessus sur com. Bon, il y avait des campagnes d'affichage, mais aujourd'hui tout ce qu'il y a avant la Fight Week, c'est ça qui attire, qui attise les gens, qui leur donne envie de venir. Donc que le pied-point s'inspire de ça. Sans aller bien sûr dans des insultes et des choses irrespectueuses, parce qu'on est très à cheval sur certaines valeurs. Mais en même temps, il faut s'inspirer de ceux qui réussissent. Quoi.
Bien sûr, on le rappelle souvent dans le Fighter Club, mais nous qui avons la chance de pouvoir participer à certaines Fight Week UFC, comme c'est cadré, ça déborde pas, c'est exceptionnel. Et regardez d'ailleurs, mais les fans le voient, mais le service de sécurité, par exemple, que ce soit à Las Vegas ou à Paris, c'est les mêmes gars. Ils font le voyage, ils amènent leur service de sécurité. Il y a le gars qui est tout le temps près de Dana White, là, et puis près des combattants principaux. Le grand, je crois que c'est un ancien militaire anglais, il me semble. Très grand, chauve, là, et lui, il est tout le temps là. Mais tu dis, mais il habite où, ce mec-là? Il est tout le temps à droite, à gauche et tout.
Bon, il habite dans la cage.
C'est la marque UFC et c'est structuré comme ça. En tout cas, c'est très intéressant de déjà avoir des petites histoires de l'époque parce que ça replonge dedans. Il y a un petit côté vintage dans tout ce que vous racontez. Donc, c'est vraiment un plaisir. Bon, on vous le rappelle, c'est le combat aussi entre ces deux anciens du pied-point qui va nous motiver dans cet épisode avec Pereira qui affronte Gann. Cyril, est-ce que c'est un garçon que toi, tu as déjà côtoyé parce que tu as commenté aussi beaucoup, notamment sur la chaîne L'Équipe, pendant quelques années, où c'était en clair, et donc il y avait une belle exposition pour le pied-point. C'est un mec que tu as déjà commenté, c'est un mec que tu as déjà côtoyé, Cyril Gann.
Je ne me souviens pas l'avoir commenté, par contre je l'ai côtoyé, j'ai vu plusieurs combats à lui. Ouais. Je connais bien le plutôt Scorp Thai où il s'entraînait, et on a échangé une ou deux fois, je crois comme ancien, il sait qui je suis. Et voilà, moi j'ai beaucoup de considération et de respect pour lui en pied-point, notamment en Muay Thai, c'est un très très bon boxeur.
Ouais, est-ce que tu as assisté du coup en tant que fan et qu'expert du pied-point, est-ce que tu as assisté à cette petite montée en puissance qu'il a eue entre 2014 et 2018? C'est là où il combat avant de transitionner vers le MMA. Cette montée en puissance, tu l'as vu aussi?
Oui, je l'ai vu aussi quand il a battu Bouganem.
Yacine Bouganem,
je l'ai vu et je comprends qu'il soit allé vers le MMA plus professionnel. Regardez où il en est aujourd'hui. Ouais. Comme je le dis, je vais encore parler financièrement. Il y a des mecs qui prennent sur un combat aujourd'hui ce que moi j'ai pris en 120 combats. Je ne suis même pas sûr de rivaliser avec ça. Donc, je comprends tout à fait l'attrait, même à l'époque de l'UFC, 92-93, les premiers, je crois.
93. Ouais.
93. Ben nous, on a commencé à combattre en Golden Trophy avec Cyril Diabaté, avec Loïc Porra, tout ça. Ben c'était pour multiplier nos rentrées d'argent. Parce qu'en combattant en kick, en taille, en full, en pancras, à l'époque, c'était en free fight, en lutte contact, on multipliait nos chances de rapporter plus d'argent, mais on n'avait pas forcément ce goût forcément du sol, à part des mecs comme Diabaté qui eux vraiment appréciaient ça. Mais je comprends tout à fait ce revirement et ce choix stratégique et intelligent d'aller là où il y a une sécurité financière. Parce que tu payes pas tes factures avec tes coupes.
Après, je pense qu'on peut ne pas trop se mouiller en disant que seulement sur ce combat-là, Cyril Gane contre Pereira, Gane va faire certainement peut-être plus d'argent en une fois que sur les 120 combats que tu as fait. Ça, je pense qu'on peut l'assurer à peu près, vu les montants que tu as donné, on peut dire que c'est ça. Par contre, Baba, quand il arrive en MMA, Cyril Gane, c'est pas la même chanson, parce qu'on est sur du... Il repart avec 24 000 $ d'une fight week sur ses premiers combats. Ouais. Et à la fin, quand tu payes les taxes, quand tu payes ton coach, quand tu payes tout ça, c'est un peu la galère. Ça, ça on a beaucoup de combattants aussi qui nous racontent la difficulté financière au début, parce que finalement, dans ta poche, il va te rester moins de 10 000 $. Et si tu combats une fois tous les 6 mois, ça pèse pas lourd.
Ah non, mais un combattant, surtout, qui n'est même pas américain en plus, qui entre à l'UFC par le même biais que Cyril, c'est-à-dire, oui, tu es champion d'une petite organisation au
TKO,
Canada,
en l'occurrence,
mineur en tout cas, et que tu arrives ensuite à l'UFC, tu signes pas en star. Donc, c'est un précaire quand il arrive à l'UFC, Cyril. Il faut vite prouver, il faut vite combattre.
Précaire. Et aujourd'hui, les gens, ils travaillent 39 heures par semaine pour gagner 1005, certains. Ouais. Hein, donc, tu vois, c'est vrai que c'est très précaire, mais comme tu dis, même si c'est la première entrée, premier combat à 10 000, j'ai touché moi 3 fois 10 000 en fin de carrière, quoi, tu vois. Ouais. Donc, puis au-delà de ça, aujourd'hui, il y a aussi ce fait qu'ils ont des sponsors, ils ont des partenaires, donc ils gagnent de l'argent, pas que dans la cage.
Ouais, ouais.
Il y a tout
les réseaux sociaux ont fait une différence de malade.
Bien sûr que oui.
De malade. Ouais. Ça, c'est vraiment
j'ai hâte de voir ce combat.
Bon, on a hâte. En tout cas, je suis aussi retombé sur un article qui date de novembre 2017 par Julien Lanchasse sur Muay Thai TV. Il parle de transition actée déjà, donc c'est le moment où Cyril avait annoncé, il avait un combat prévu en Muay Thai, il avait annoncé qu'il allait en MMA, alors qu'il aurait pu viser le Glory à l'époque. Hein, c'était peut-être
ce qui était prévu.
Prévu pour
Cyril Gane. Il y avait des rumeurs, comme quoi il avait déjà signé et qu'il il allait intégrer la division poids lourd, qui était déjà à l'époque dominée par Rico Verhoeven.
Ouais, déjà.
Qui va boxer ce week-end contre Uzi.
Et Glory, c'est du K1, hein, c'est pas du moi. Il aurait peut-être été handicapé avec son PAM, tout ça. Donc,
les choix de carrière, déjà, assez intelligents de la part de Cyril Gane. Et donc, Julien Lanchasse, il évoque une force de la nature dans cet article-là. Donc, il avait assez peu de combats Muay Thai. Mais déjà, on voyait en lui une force de la nature. On voyait un garçon qui allait être capable de développer vraiment autre chose que ce qu'il avait déjà montré en France jusque-là. Toi, Baba, cette montée en puissance, justement, comment tu la vois sur le Cyril Gane? Même question que j'ai posée à Aurélien tout à l'heure, mais comment tu la vois, cette arrivée de Cyril Gane un peu massive dans ce sport?
Ouais, nous, c'est un peu pareil. Tu vois, en Muay Thai, déjà, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu pas mal. Mais on nous dit qu'il y a un poids lourd chez Xavier, plutôt, qui, waouh, putain, athlétiquement, c'est un truc de fou. Le temps que je comprenne, il fait champion de France et Yacine Bouganem. Donc, on se dit, ok, super, on a un mec qui peut aller faire une transition en kickboxing. Et ça fait longtemps qu'on n'avait plus, nous, de stars en poids lourd. Une fois que Jérôme est parti, le banner, une fois qu'il y a eu une génération juste derrière qui n'a pas réussi à vraiment percer comme lui, ça a été plus dur. Et puis, boum, boum, on apprend qu'il va en MMA, quoi. Donc, moi, tu te doutes bien que le fan de Pied-Point était un peu dégoûté. Je me dis, putain, pour une fois qu'on a un gars qui, depuis des années, qui peut faire quelque chose,
et tu savais pas que 10 ans après, t'allais te retrouver chez Combat Sport.
Ouais, si on me l'avait dit, j'aurais pas cru.
En train de commenter du MMA toute la journée.
Et derrière, par contre, vu le niveau qu'il avait déjà réussi à acquérir, la palette technique, parce qu'encore une fois, il a un excellent coach. Je passe un grand bonjour à Xavier Séverin. C'est un vrai formateur, Xavier. Donc, lui, quand il va te former au corps à corps, au PAM, tu sauras clincher quand tu vas sortir de là. Tu sauras bien gérer ta distance, tu auras du mouvement. Les combattants de Xavier, en règle générale, c'est des combattants qui sont bien préparés, qui essayent de t'étouffer, qui ont beaucoup de cardio, tu vois. Je me suis dit, franchement, c'est pas possible qu'en poids lourd en MMA, c'est pas possible qu'il y ait 15 mecs qui soient plus forts que lui, debout. C'est impossible. Je crois pas qu'il y en ait 10 non plus.
Ouais, ouais, parce que tu voyais déjà ce côté aérien, alors après, il y avait toute la transition à travailler.
Même sans le côté aérien. Ouais. Même sans le côté aérien. Si tu veux, moi, quand Cyril il part du Muay Thai, pour moi, c'est plus ce qu'on appelle un Muaybook. Ouais. C'est quelqu'un qui va avancer sur son adversaire, qui va mettre beaucoup de pression, qui va l'étouffer, qui va, tu vois, beaucoup de corps à corps. Il aime bien le corps à corps aussi. Et donc, c'est quand il va chez Fernand qui lui change un petit peu son style et qui met la patte MMA Factory. Ouais.
Et d'ailleurs, Julien Lanchasse recueille aussi les propos de Cyril Gane dans cet article-là. Et Cyril rend hommage à Xavier Séverin en disant « J'ai un peu de pincement au cœur parce que j'ai commencé ce sport chez Xavier. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a fait monter. Et là, je rejoins Fernand Lopez pour aller vers d'autres horizons et c'est autre chose. » Donc voilà, on était aux prémices. Donc un grand coucou à Muay Thai TV aussi qui a fait un gros travail à cette époque-là pour le pied-point en France. D'ailleurs, c'était quoi comme combattant, Aurélien? C'était un Muaybook? Comment tu le qualifierais?
Pour rien, c'est les relous parce qu'ils pouvaient changer, ils choisissaient.
Les relous.
En fait, c'est les combattants, quand tu vois Aurélien, tu sais, grand, élancé, élégant dans sa manière de boxer, t'as le tort de croire que du coup ça va être un combat technique. Et puis il switchait, il y a un truc qui switchait en fait, et puis
l'œil,
il te descendait.
Le fond
de l'œil
qui à un moment te fait croire que tu vas être gentil.
Et regardez sa carrière sur YouTube, il y a plein de combats, je vous invite à la regarder.
Il y a plusieurs entraîneurs qui disaient que je savais tout faire, j'étais un bon élève, donc je savais apprendre. J'avais fait avant de faire du kickboxing que j'ai découvert à 21 ans. Donc avant ça, j'avais fait du basket, du tennis de table, du karaté, de l'équitation, la chasse à l'homme avec les potes, la course, j'étais toujours en mouvement. J'étais curieux, donc je savais être un styliste. Ouais. Et en même temps, j'avais beaucoup de générosité sur mes gestes, donc ça percutait. Ouais. Moi, je m'étais qualifié comme un styliste. Et une fois, André Zetoun, il me tape sur l'épaule, il me dit « Aurel, tes 25 premiers combats, c'est 25 victoires avant la limite. Mmh. T'étais un puncher.
Ouais, »
okay. Moi, je croyais « Ah, c'était ma technique qui l'a fait. » Non, ouais, ouais. La patate, quoi.
C'est un peu tes jeux aussi avec tes potes qui t'ont donné envie de faire ça. C'est, ouais. T'as su que t'avais un petit truc. Tu faisais chasse à l'homme, d'ailleurs. Baba, tout à l'heure, il me racontait que lui, quand il était jeune, il marchait sur un rebord de fenêtre du 9e étage. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, ouais, quand il est jeune.
Mais... on a dû me rimenter un petit peu.
Charlie me balance, à chaque épisode, Charlie me balance une anecdote. Et j'ai pas encore commencé, attention.
Celle-là, elle était fraîche.
Je vais sortir le pire.
Elle était tout à l'heure. C'est Aurélien qui a parlé des habitudes d'enfance. Donc voilà,
ah ouais, ça nous force.
Je citais les tiennes, mais ouais, bien sûr. Bien sûr.
Ça fait un peu cliché, mais tous ces jeux d'enfants, comme je vous rappelle, là, aujourd'hui, on a plein d'enfants super fragiles parce qu'ils vont plus dehors, ils jouent plus dans la boue, ils prennent plus de coups, ils font plus de bagarres, ils sont dans des milieux assez les mômes sont super fragiles. On sait qu'un être humain, pour se renforcer dans son enfance, il faut qu'il ait eu de la perturbation, des challenges, des arts martiaux, des difficultés, et c'est ça qui nous renforce, notre système immunitaire, notre ce fameux mindset
mental, bien sûr,
et notre envie de du goût du dépassement de toi et du goût de l'effort.
Ouais, on se sédentarise un petit peu aussi avec les téléphones, les réseaux sociaux, et puis c'est vrai que peut-être, bon là on part sur un podcast d'éducation, mais bon, c'est vrai que peut-être qu'à rester chez soi, ça empêche les jeunes de découvrir certains sports qu'ils peuvent découvrir avec leurs potes, en jouant au foot en bas de l'immeuble, en faisant des trucs comme ça. Bon voilà, tout est, peut-être lié, mais bon.
La vie, c'est la rencontre la rencontre avec l'autre. Ouais, c'est ça. C'est là que tu te rends compte vraiment. Ouais, quand t'es chez toi tout seul face à ton ordi, c'est facile.
Et pour le coup, la boxe que t'as fait dans les années 90, ça a dû beaucoup aider aussi à rencontrer plein de monde à travers la planète. Et ça a dû beaucoup te forger pour l'homme que tu es aujourd'hui, Aurélien. L'histoire du pied-point intégré au MMA. On va essayer d'aborder un petit peu ça et voir comment ça se passe. Déjà, j'ai une question assez basique. Comme on le disait, Pereira, kickboxing, double champion du Glory, Cyril Gane, Muay Thai. Quelle est pour vous, des deux disciplines, celle qui est le plus adaptée pour pouvoir réussir en MMA?
Laquelle, il y a des coups de coude dedans?
Une petite réponse.
Donc le Muay Thai. Je suis évidemment extrêmement biaisé et je n'ai aucun souci là-dessus. Et Aurélien te dira qu'à son époque, il y avait même une guéguerre entre le kick et le Muay Thai en France, avec beaucoup de conséquences, certaines très fâcheuses même. Ouais. Je pense à ton combat contre Moussa Sissoko, par exemple. Mais oui, le Muay Thai, c'est quand même complet parce que tu vas avoir les coudes et puis tu vas avoir cette notion de clinch, encore une fois, qui va être importante. Si tu vas, par exemple, combattre un lutteur, tu vas avoir déjà certaines notions. Passer les bras, passer les mains, les rejoindre, tu vois, créer de l'espace, travailler en coup de genou, en coup de coude, qui vont te permettre d'avoir déjà certains leviers défensifs. Si tu viens en étant un striker qui a des lacunes au sol, tu vas déjà avoir un premier levier, alors que si tu viens du kick, le kick à proprement parler, celui en France où tu n'as pas les coups de genou, tu n'as pas les coups de genou, tu n'as pas d'accrochage, tu saisis une jambe, c'est tout de suite pénalité, ben ça va être plus dur, tu vois.
T'es d'accord avec Baba, Aurélien ?
Oui, je suis d'accord que le Muay Thai, il y a plein d'avantages pour le MMA. Et puis, je sais aussi que ces athlètes, aujourd'hui, sont des vrais professionnels. Et comme à mon époque, je combattais en kick, en full, en taille, je faisais une préparation spécifique. Et même les 14 combats où j'ai fait du sol, j'allais avec... à l'époque, c'était Bertrand Amoussou et Luc Capa. J'allais, et avec Loïc aussi, j'allais m'entraîner deux fois par semaine. Et on arrive à s'adapter. Donc, il y a un moment, quand ça fait gong, c'est pas ce que tu as fait avant qui va compter. C'est ce que tu vas faire sur le moment. Et moi, je voudrais parler d'une dimension au-delà de la technique. J'ai l'impression, avec tout, et bien sûr, je souhaite que Cyril gagne, j'ai l'impression que Cyril fait des combats. Et j'ai l'impression que Pereira, il veut tuer ses adversaires.
Ouais,
ok. Il n'y a pas la même intention, quoi.
Il y a une construction de combat face à un serial killer qui arrive. Tu vois pas les mêmes intentions chez les deux personnages.
Exactement. Ça m'est arrivé de rencontrer Nabil Sabri, un jeune champion de France. Je venais de battre Orlando Viette. J'étais champion du monde. Je suis arrivé pour faire un combat. Lui, il est arrivé pour descendre le champion.
Ouais.
Il est arrivé pour faire du sale. Ouais. Et il m'a battu.
Okay.
Parce que j'étais ce jour-là, le combat contre Cao Clay, j'étais pas venu pour me battre, j'étais venu pour dire au revoir au ring et demander la mère de mes enfants en mariage. Et lui était venu pour.
Donc
pour
c'est différent que toi, tu as
l'intention.
Toi, tu le vois dans ce clivage Cyril Gane à l'expérience, tu donnes plutôt cet avantage léger à Pereira sur l'intention.
Bah oui, parce qu'à un moment sur le ring, la frappe, l'agressivité, la faim, l'envie de faire mal à l'autre, ça peut vraiment surpasser la technique. Je me rappelle, je crois, quand Cyril avait fait ça à Francis Ngannou.
Après, Francis, il dit pardon. Après, Jones, il regarde la caméra, il dit pardon.
Et les cœurs, c'était avant Jones.
cœur, tu dis arrête ça.
Les cœurs, je me rappelle.
Enfin bref, plus exactement. On lui dit arrête ça, les gars. Il y a un moment, on va être dans la cage quelques minutes. C'est l'animalité. C'est moi, je veux sentir le goût de ton sang dans ma bouche, quoi. Mon héritage, ma suite de ma carrière dépend de ce que je vais faire là. Donc peut-être que toi, tu le prends comme un événement sportif. Moi, c'est my legacy, quoi. Tu vois, il y a mon nom qu'on met avec ça. Et je sais que parfois, ça m'a joué du tort de mettre sur la technique, de mettre sur la prépa, et vraiment de développer cette colère, cette agressivité, cette animalité. Ça fait vraiment une différence.
Mais tu vois, quand on te voit toi, Aurélien, qui est hyper souriant, hyper avenant, non, mais c'est vrai, t'as cette personnalité-là.
Ah, une paire de gants, je vais.
Non, mais voilà, c'est ça, un peu solaire. À quel moment tu arrives à switcher c'est, tu vois, en tant que combattant, à quel moment justement, ce Aurélien qu'on voit là au micro, hyper comme tu es naturellement, à quel moment tu switches et là tu dis, je rentre sur le ring, je vais le tuer lui. Tu vois, c'est quoi qui te fait passer d'un mindset à l'autre en fait?
Que c'est autorisé et que c'est permis. Il y a un espace. Regardez une maman en colère, elle va mettre une fessée à son gamin. On a des gens au feu rouge qui se tapent dessus. On a plein de violences institutionnelles, de violences éducatives qui sont acceptées. L'être humain est fait de lumière et de part d'ombre. On est fait de douceur, de tendresse. Et le plus gentil d'entre vous, si quelqu'un venait à faire du mal à son enfant ou à sa femme, qu'est-ce qu'on serait capable de faire? Donc je crois que justement, ce qui nous fait des adultes, des humains équilibrés, c'est que j'ai un espace là pour exprimer mon amour, ma joie, ma tendresse, ma sympathie. Et j'ai des endroits aussi pour exprimer mon animalité. Comme le disent les Asiatiques, la chambre à coucher et la salle d'arts martiaux sont les deux lieux où tu peux autoriser ce qui n'est pas permis dans l'espace public. Donc je crois que c'est le simple fait que ça soit autorisé.
Ça me fait rire justement parce que Baba aussi me parlait des parents d'élèves tout à l'heure à l'école.
C'est vrai. La part d'ombre est ressortie.
Ah oui.
Elle est ressortie. Oups. En tout cas, et d'ailleurs, si vous voyez quelqu'un derrière Baba, c'est Nathan Rochefort qui est dans le studio avec nous. Et il vient de me montrer à l'écran que justement, c'était à la pesée ou à la conférence de presse avant John Jones qu'il a fait un cœur au public.
Exact, ouais.
Et que voilà, bon, une fight week du coup sur l'image qui était pas bon, il jouait à la PlayStation, ça lui a retombé dans la gueule, la CLG et les cœurs.
C'est intéressant ce que dit Aurélien, mais du coup, parce que tu sais, son surnom c'est Bon Gamin justement, Cyril. C'est un mec cool, sympa, enfin, en tout cas c'est l'image que lui donne, renvoie, qu'on va avoir de lui.
Et qu'il est réellement.
Et qu'il est réellement, tu vois, pour le coup. Mais toi qui fais beaucoup de prépa mentale, c'est ton métier aujourd'hui, c'est quoi le levier pour dire là tu vas à la Maison Blanche, il y a un assassin en face de toi, il va falloir chercher quelque chose, justement, une part d'ombre. C'est quoi, comment tu...
Ben justement c'est ça, c'est se connecter à ce qu'on s'interdit, se connecter à cette brutalité, ce qu'on appelle violence, le fourre-tout, le mot violence. Tout ce qu'on appelle l'animalité, la combativité, l'agressivité, la force brute, tu vois, c'est de le reconnecter à ça. Donc moi, je le laisserai techniquement, je le laisserai être qui il est, et de m'assurer que quand il passe les cordes, bah, il s'autorise ce qui ne s'autorise pas à l'extérieur. Il y a un espace pour le bon gamin, et il y a un espace pour la bête et le combattant.
Je pense qu'on l'a vu contre Aspinall. Moi, j'ai noté un changement. J'étais en bord de cage en plus, donc c'était assez bien pour s'en rendre compte. Mais moi, j'ai noté un changement quand même. Il était bien plus agressif, bien plus... dur, tu vois, il y avait pas de smile quand il arrivait dans la cage, il checkait les gants, ok, pourquoi pas, même les face à face, j'ai senti cette semaine là que c'était un Cyril qui était quand même différent.
Donc il a développé ça aussi, ça se travaille, bien sûr que ça se travaille ça.
Est-ce que avec la carrière qu'il a déjà réussi à faire, on peut se dire que ce côté là il l'a pas? Est-ce que c'est possible de ne pas avoir, de faire une carrière comme il est en train de faire et de ne pas avoir ce côté tueur, ce côté je rentre dans la cage, j'ai envie de le tuer, le mec qui est en face de moi, c'est possible ou pas?
Moi je pense que c'est possible, ouais.
C'est quelque chose qui se travaille, ça on sera d'accord pour dire que ça se travaille. C'est instinctif ou alors c'est plus d'instinct ou c'est plus de travail ça?
Ça va dépendre des individus.
Ça dépend des personnalités.
Je vous le redis encore, on l'a tous en nous, la plus gentille des personnes.
C'est au fond, mais c'est un truc à aller chercher.
La plus gentille des personnes, mets-la dos au mur, elle va avoir un comportement qui va te surprendre. Mais si cette personne a eu peut-être une vie facile et qu'elle n'a pas eu l'opportunité et l'occasion d'utiliser sa force pour survivre ou pour se défendre, peut-être qu'elle sera moins amenée à le faire. Alors qu'une personne qui l'a fait régulièrement, ce sera plus facile le jour du combat. Mais je pense qu'il faut être vigilant là-dessus.
Pour conclure sur ça, moi, je pense, pour te donner un exemple assez concret, j'aime bien utiliser avec mes élèves l'exemple du sparring, tu vois, tu vas avoir deux types de personnes à la salle. Tu vas avoir en sparring quelqu'un qui sera toujours agressif, tu vas lui dire c'est du sparring light, il va quand même taper un peu fort, il va quand même appuyer, tu vois, et tout. Et t'as celui qui arrive qui est plus sympathique, qui dit bon ok, on m'a dit que c'était technique donc je fais attention. Par contre, à force de prendre des coups puissants, d'un seul coup il switch, et là ok, bah ça part en guerre. Et puis toi tu sais pas, t'es en train de coacher des mecs de ce côté-là, et puis t'entends de l'autre côté que les mecs sont en train de partir sur un gros sparring, parce qu'il y en a un qui a fini par réagir.
C'est là où c'est important d'être cadré aussi et d'avoir fait de s'être bien entraîné avant, parce que je sais pas, sur les mecs loisirs amateurs comme moi, si je vais faire un cours de boxe, ça m'est arrivé d'ailleurs, les mecs il envoie une jambe, mais tu sens, tu lui as dit tranquille, je débute, et le mec il veut te faire mal, mais si moi j'y vais alors que le mec a déjà un peu plus d'expérience et tout, et que j'y vais en chiffon, je vais me faire défoncer aussi.
Ouais, mais t'apprendras quelque chose.
J'apprendrai quelque chose sur moi-même et sur le mec qui est en face de moi. Bon, en tout cas, kickboxing, Muay Thai, du coup. Alors, revenons techniquement, qu'est-ce que le kickboxing, en revanche, peut apporter dans le MMA d'après vous? Quels sont, même si vous avez répondu, en tout cas tous les deux, de la même manière, en disant que le Muay Thai va apporter plus de capacités techniques vers la stratégie MMA, qu'est-ce que le kick, lui, peut apporter? Les appuis, peut-être, justement, ouais. Cette capacité à pouvoir faire in-out plus rapidement?
Moi, je vais donner la parole à Roland là-dessus, juste en le lançant, parce qu'il vient du karaté, comme il l'a dit, mais le kickboxing vient du karaté, il faut le savoir. Et en fait, la meilleure partie de ton style, je pense celle qui était la plus reconnue en toi, c'est celle, j'imagine, dont on peut parler pour ce sujet, les déplacements, les décalages, ouais. etc.
Tout ce qui est préparation d'attaque, bien sûr que oui, le Muay Thai, en tout cas comme moi je l'ai appris, bah, tu restes en face, t'envoies un coup dur pour rentrer, tout ce que l'autre fait, tu le bloques, tu l'annules, il y a vraiment beaucoup d'opposition. Mmh. Alors que le kickboxing, le karaté, la savate, il y a les préparations d'attaque, la gestion de l'espace, les feintes, les déplacements, et ça peut faire beaucoup la différence aussi, c'est des choses en tout cas, ce que j'ai vu dans ma carrière, quand je faisais du kick et de l'ABF, on axait beaucoup là-dessus. Alors que dès que j'ai un cours de Muay, toi tu shootes fort, bah vas-y, shoot-le, ouais. jusqu'à ce qu'il cède. Quoi.
Alors, mais si je vous écoute par rapport à leur déplacement, on aurait plutôt tendance à dire que Cyril est un combattant kick et Poatan est un combattant Muay Thai.
Tout le paradoxe est là, mais en fait, Alex Pereira, pour moi, c'est une anomalie. À chaque fois qu'on me posera la question, je te répondrai la même chose. Je ne pensais pas qu'il était fait pour réussir en MMA, ce mec. Je ne pensais pas qu'il aurait tout ce succès-là. Je crois que c'est Alistair Overeem qui vient de le dire là. Il vient de dire, je ne comprends toujours pas comment il fait pour avoir autant de succès. Parce que quand tu regardes son style, effectivement, il est à l'économie. Il n'est pas beaucoup sur les déplacements, sur les décalages, il ne décale pas. Par contre, tout est très subtil avec lui. Tout est pour servir, évidemment, son crochet du gauche phénoménal. Donc, ça va être des petits mouvements, des petits décalages, des petites esquives remises. Il a vraiment maximisé le fait que ce n'est pas un gars qui va avoir besoin de beaucoup utiliser le ring ou la cage ou se décaler. Par contre, il est létal. Si tu manques, toi, ton coup et qu'il a réussi à l'esquiver, il ne va pas l'esquiver comme s'il esquivait un camion. Lui, il esquive au millimètre. Ouais. Ça veut dire que tu es déjà mort, en fait. Si ta main ne revient pas aussi vite, et ce qui arrive tout le temps à tout le monde, bah, tu te retrouves au sol. Et Cyril, de l'autre côté, c'est également une anomalie. C'est ça qui est assez intéressant dans ce combat-là, c'est que Cyril, c'est pas ton combattant de Muay Thai traditionnel, entre guillemets. Ouais. Vu comment le style qu'il a réussi, qu'il a pu acquérir ensuite en arrivant en factory, ce que Nassourdine aussi faisait, donc beaucoup plus de déplacements sur la pointe des pieds, je décale, je sors, je pique, je change de garde, etc. Bah ouais, il s'est complètement éloigné de son style de Nak Muay à l'époque, quand il était en Muay Thai. Ouais.
Garder les armes du Muay, c'est un peu ce que je disais quand j'ai commencé le Muay Thai, j'avais fait du karaté, et avant d'arriver à haute tension chez Jean-Marie Merchet, j'avais fait une année de kick, et j'étais un kicker qui boxait en Muay. Ouais. Tu regardes mes combats, je me sautille, je me déplace, et des fois, de temps en temps, bah, quand je tombais sur un kicker ou un gars de la savate, je me posais façon Muay pour le déstabiliser. Mais j'ai boxé 4 Thaïlandais. Moi, j'ai pris un KO par KO Klai, mais j'en ai mis 3 KO. Et les 3, je ne les ai pas boxés comme des Thaïs. J'ai feinté, je me suis déplacé. Et c'est vrai que là, quand je repense à la physionomie, je vois Pereira qui est très posé, comme un Nak Muay, et Cyril Gane qui est très mobile, comme un kicker.
Ouais, c'est marrant. Alors, le mot anomalie, il a été dit plusieurs fois par Baba. Tu es d'accord de cette anomalie, déjà sur Cyril Gane, un mec de son poids, 110 kilos à peu près, qui bouge aussi bien, et en plus, qui a réussi du coup dans une discipline où normalement, on a des appuis un peu plus posés.
Alors, j'ai fait le deuil, moi, de ce mythe que les gros costauds ne seraient pas mobiles. Je viens du basket. Donc moi, j'ai vu des mecs de 2 mètres, 2 mètres 10 faire des reverse, c'est des clair. Dunks avec des mouvements de fou. Donc je pense qu'à une époque, on avait décidé, si t'as un poids lourd, t'es un camion. Et si t'as un poids léger, t'es un roseau. Et je crois qu'on peut ne pas figer les personnes dans ça. Et d'ailleurs, on l'a vu, on a aujourd'hui plein de gros cabarets qui sont super véloces, qui sont souples.
Mais l'UFC, le roster actuel, en tout cas du top 15 à l'UFC, dément un petit peu ça, parce qu'ils ne vont pas prendre trop ces profils-là. On a plutôt des costauds et qui ont beaucoup moins de mobilité, Baba, que la Cyril Gane. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on met Cyril Gane aussi haut, c'est que la comparaison directe dans le top 15 UFC, c'est des mecs beaucoup plus, bah, comme tu disais, hein, des gros balourds un petit peu plus posés. Quoi.
Ouais, mais c'est parce que, alors, ça va peut-être pas plaire hein, ce que je dis, mais c'est une stricte vérité. À l'UFC, c'est pas les meilleurs strikers, c'est pas les meilleurs strikers poids lourds du monde. Mm. Pour ça, il faut aller regarder Glory, il faut aller regarder Luan, il faut aller regarder du Muay Thai traditionnel ou du kickboxing traditionnel dans d'autres organisations, et tu vas trouver plein de mecs qui sont meilleurs debout que les combattants du top 15 à l'UFC. Mmh. Donc c'est pour ça aussi que tu as cette différence qui est flagrante. Et c'est pour ça aussi que quand Cyril a fait sa transition, je me suis dit, vu la tête de la KT, ça devrait aller vite. Je ne pensais pas que c'était aussi vite que ça.
Ouais, ouais.
Mais je me suis dit, normalement...
Parce qu'en pied-point, il était vraiment au-dessus en pied-point.
Quand même largement au-dessus. De... Et ça se voyait, quoi, tu vois. Mmh. En fait, c'était tellement... Cyril, quand il arrive à l'UFC, il est tellement au-dessus des mecs en poids lourd en pied-point qu'il y a des mecs qui sont là depuis des années. Je pense à Derrick Lewis notamment, tu vois, des mecs comme ça. Que là, il y a des fans qui se sont dit, mais en fin de compte, il était nul. Non, c'est pas qu'il était nul, Derrick Lewis. Il était bon. C'est pour ça qu'il a mis autant de KO, etc. Mais là, t'as un mec qui aurait dû devenir un combattant d'élite en kickboxing. Mmh. C'est à ça que ça ressemble, en fait, l'élite. Un combattant d'élite qui vient dans son prime en pied-point, en MMA, il va faire de grandes choses. Un mec qui arrive post-prime à la retraite, ce qui était beaucoup le cas des combattants pied-point à l'époque, Peter Hart, etc., ils en ont fait un petit peu. Ils se sont fait soumettre en deux secondes et tout. Mais les mecs, ils avaient 40 ans. Peter Hart, je sais pas combien de combats il a. Comme toi, quoi. 120, 130, j'en sais rien. Beaucoup. Les mecs, ils ont du kilométrage. Je pense à Gokhan Saki qui est arrivé très tard.
Ouais.
Adesanya, il arrive, il a fait une cinquantaine de combats en kick. Ouais. Un peu plus selon son palmarès, mais je sais qu'il y a des amateurs dedans. Aujourd'hui, je révèle des choses. Les 75 combats en kick, il y a beaucoup d'amateurs pour Adesanya. Mais... En tout cas, il arrive, il est frais, il est dans son prime. Regarde ce que ça a donné. Ouais. Pereira, il arrive aussi dans son prime. Regarde ce que ça a donné.
Ouais, ouais. Mais après, alors pour Cyril, il a pas tellement. C'est un super prodige, voilà, comme bon gamin, tout ce qu'on a dit. Il a très peu de combats finalement, tu vois, sur des mecs comme toi. Lui, il a 13 combats, je crois, ou 14 combats en Muay Thai.
En Muay Thai, ouais, très peu.
C'est 13 ou 14. Ouais. Donc, est-ce que cette peu d'expérience qu'il a eu en Muay Thai, finalement, s'est transformé en un avantage de ne pas avoir des réflexes trop ancrés qu'il a depuis tout jeune et qui lui ont permis de pouvoir développer d'autres réflexes pour un nouveau sport?
Ah oui, Aurélien,
bien sûr, complètement. Parce que oui, il n'était pas formaté, il était enseignable, comme on dit, il pouvait changer. Là, vous prenez un pur Dak Muay de Thaïlande, d'un camp, qui a fait que du Muay, qui a fait 200, 300 combats, allez lui apprendre les déplacements ou autre chose, ça va être la croix et la bannière. Einstein le disait, il n'y a rien de plus dur à changer qu'une habitude. Hein. C'est plus facile de briser un atome que de changer une habitude. Il y a un petit jeu que j'aime bien faire souvent sur les habitudes pour que vous vous rendiez compte, vous qui nous écoutez, même vous, faites-le là. Allez-y, croisez les bras. T'as vu, on a une position naturelle pour croiser les bras.
Ouais.
Regarde, maintenant, je change juste une chose. Mets le bracket en dessous, mets-le au-dessus. Est-ce qu'on est aussi confortable?
Non.
Non. Alors que c'est les deux mêmes bras.
Ouais.
Vous voyez, juste pour changer de position de bras, on se sent mal à l'aise.
Ouais.
Alors imaginez changer de style de combat,
ouais.
C'est super difficile. Plus tu as fait quelque chose, plus tu es spécialiste et plus c'est dur d'être polyvalent.
Ouais, évidemment, rendez-vous sur la page YouTube RMC Sport Combat pour voir cette petite séquence avec Baba. On regarde nos bras.
Mais
la démonstration.
On veut changer de style de combat, on veut changer de manager, on veut changer de méthode d'entraînement et on n'arrive pas à changer la manière dont on croise les bras.
La démonstration est concrète. Ce qui est intéressant aussi chez Cyril, c'est quand il arrive en MMA, il casse aussi des soumissions tout de suite. Sur ses cinq premiers combats, il y a deux TKO, il y a trois soumissions.
Ouais.
Ah ouais.
Donc l'adaptabilité, elle a été prouvée déjà dans ses tout débuts en MMA.
C'est très vrai, et ça prouve aussi que c'est une éponge, que c'est quelqu'un qui a des qualités quand même qui sont au-dessus de la moyenne. C'est pas juste. C'est vrai que le fait qu'il ait peu de combats, ça lui a permis de vite switcher et d'apprendre autre chose, mais tu vois bien que c'est une éponge. C'est un mec, apparemment, il dunkait depuis qu'il a 14 ans, tu vois, il faisait du basket et tout. Donc il y a des mecs comme ça, comme on dit toujours, tu vas connaître un mec dans ton entourage, prend n'importe quel sport et d'un seul coup, il a un potentiel athlétique qui fait qu'il est très bon. Maintenant, c'était important au début de sa carrière, ces soumissions-là, parce que il arrive avec l'étiquette de striker, de combattant, de Nakmoué, et tout de suite il soumet des gars. Donc en fait, à l'UFC, les mecs ils oublient ça et ils sont obligés de préparer Cyril en étant complet. Tu ne prépares pas un mec que debout. Et même si aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a eu le plaisir de recevoir Aurélien, on imagine que le combat se passera debout. J'espère pour Pereira qui se prépare à ce que Cyril puisse l'amener au sol, parce que Cyril, ça fait longtemps maintenant que c'est un combattant de MMA. Et ça fait longtemps qu'il a corrigé certaines lacunes au sol et que quand tu travailles ta lutte défensive, tu travailles ta lutte offensive. Si tu travailles ton grappling défensif, tu travailles ton grappling offensif.
Si toi, Aurélien, tu étais allé en MMA et que, comme Cyril Gann, tu allais affronter un gars très à l'aise en kickboxing comme Alex Pereira, comment est-ce que tu aurais préparé ce combat? Est-ce que tu aurais appuyé sur tes forces qui, à la base, sont pied-point? Ou alors, est-ce que tu serais dit, attends, Alex Pereira, si on va le coller, il est moins à l'aise, je vais travailler là-dessus?
C'est intéressant comme question et... C'est important de s'appuyer sur ses points forts. Donc, sur les 14 combats de MMA que j'ai fait, ou des noms différents, où il y avait du sol en tout cas, j'ai tout misé sur le debout. Et d'ailleurs, j'ai qu'une seule défaite sur les 14 combats sur un Jujigatame, sur une clé de bras. Un japonais que j'avais bien découpé d'ailleurs, et à l'arbitre l'avait arrêté, après ils l'ont soigné, ils me l'ont renvoyé, je l'avais un peu en travers de la gorge. Mais véritablement, oui, je vais, comme je le disais avec les tailles, je ne vais pas être plus taille qu'un taille. Tu vois. Donc je pense que véritablement, là, j'aurais intérêt, moi, à miser sur le punch, à miser sur mon pied-point, et bien sûr aussi avoir des notions défensives au sol. À mon époque, il y avait vraiment deux familles différentes. C'était des strikers qui rencontraient des grappleurs. Aujourd'hui, les mecs sont complets. Donc moi, je miserais vraiment sur mes points forts, et bien sûr, sans négliger le travail au sol, se relever, sortir, éviter les erreurs les plus classiques au sol, mais vraiment j'aurais misé sur son point fort.
Et d'ailleurs sur ce camp-là, Cyril Gann travaille beaucoup en striking, d'après les échos qu'on a, avec notamment un gars qui a battu Alex Pereira. Donc il s'entoure aussi de personnes qui savent faire dans ce domaine-là.
Ouais, il a ramené beaucoup de combattants du Glory, donc il a ramené Varitov, Artem Varitov, qui a fait deux combats contre Pereira, un qu'il a perdu. Leurs deux combats sont assez paradoxaux, puisque le premier, tout le monde pense que Vakitov gagne et Emmett Pereira vainqueur. La revanche, tout le monde pense que Pereira gagne et Emmett Vakitov vainqueur. Donc c'est un peu particulier. Mais la revanche, tout le monde savait que Pereira allait à l'UFC derrière. Donc le Glory n'a pas voulu qu'il parte avec la ceinture. Bon, c'est comme ça que je le vois en tout cas.
Et Pereira, il a gagné déjà par soumission au sol? Il est comme
non,
au sol.
Jamais, non, jamais, jamais par soumission. Jamais, il est jamais. À 11, il a 13 victoires je crois. Il a 11 KO TKO.
Dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant, tu vois, que dans ce cas spécifique, avec le crochet qu'il a, la frappe qu'il a, et s'il a des lacunes au sol, ce serait de Cyril rentrer fort pour le saisir et l'amener au sol et peut-être le neutraliser au sol.
D'autant que même si là, il travaille en striking sur ses camps précédents, notamment pour préparer Aspinall, il avait quand même beaucoup axé sur la lutte et beaucoup pour renforcer cet aspect-là qui lui a coûté cher à l'époque contre Francis Ngannou, et qui va essayer, là, en tout cas, d'être le plus complet possible si jamais il y a de l'opposition.
Absolument.
Là-dessus.
De toute façon, ils viennent pour faire un combat de MMA, et à ce jeu-là, Cyril a plusieurs longueurs d'avance en termes d'expérience. Et Cyril, contrairement à Pereira, il a été testé contre des lutteurs, contre des grappleurs. Il a été amené au sol, il a été maintenu au sol par Francis, notamment, par Volkov ensuite. Pereira, il y a vraiment, ce qui est assez exceptionnel, le seul mec qui a vraiment essayé, qui a lutté Adesanya, c'est Adesanya. C'est l'autre kickboxer.
Ouais.
Dans leur premier combat, qui était en fait leur troisième, il a lutté pendant le troisième et le quatrième, ce qui lui a permis de prendre un avantage. Manque de peau, il n'a pas pu finir. Et quand tu finis pas Pereira, le problème, il est entier
de la
première
jusqu'à la fin.
À la dernière seconde du combat.
Jusqu'à la fin.
Son crochet du gauche, il te touche.
Dangereux.
N'importe quand tu tombes.
Ouais, parce qu'il n'a même pas besoin d'une barre d'énergie qui est au maximum pour le décrocher, celui-là. Il a les appuis, il a l'ancrage aussi qui lui permet de pouvoir le distribuer un petit peu quand il veut. Pour revenir sur un côté un peu général, peut-être d'abord t'entendre Baba là-dessus. L'évolution des règles du MMA, est-ce que au fil du temps, elles ont favorisé ou pas le pied-point, le kickboxing, le muay thai? Sachant qu'il y a eu plusieurs périodes, aujourd'hui ce sont les dégâts qui vont être privilégiés, ça va être les dommages, ça va être la violence, en gros ça va être vraiment le spectacle que tu vas pouvoir produire, là où à un moment c'était le contrôle qui est privilégié. Donc comment ça s'est fait dans l'évolution des règles adaptées au MMA?
En tout cas, la volonté, je pense qu'elle est là, de privilégier les dégâts, et les plus gros dégâts tu vas pouvoir les faire debout. En tout cas, et puis c'est les dégâts les plus visibles, c'est les dégâts qui vont le plus impressionner les juges en fin de compte. Maintenant, sur les combats récents, on voit aussi des gars qui prennent leur adversaire, qui le ramènent au sol, qui font pas spécialement beaucoup de dégâts, mais qui gagnent. On a vu un exemple tout récent là, de Pat Sabatini contre William Gomis. Il lui a fait zéro dégâts dans le combat. J'ai pas parlé avec William, mais je pense qu'il a pris zéro coup.
Il avait mis des stories juste derrière dans sa chambre d'hôtel ou quand il était parti de la salle où il était immaculé.
Par contre, il s'est fait contrôler contre la cage. Il a défendu la lutte contre la cage pendant 15 minutes. Il y a eu deux ruptures de contact où c'est William qui touche. Bon, moi en tout cas, malgré tout, malheureusement, je pensais que ça manquait un petit peu d'action du côté William Gomis pour pouvoir gagner. Mais il n'y a pas de dégâts. Donc aujourd'hui, c'est difficile à dire. C'est difficile de répondre à ta question en étant 100% sûr. Tu vois,
Qu'est-ce qui privilégie plus aujourd'hui en MMA sur les critères?
Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux règles qui vont privilégier la violence, il pourrait sembler que le pied-point puisse être plus récompensé que les lutteurs, tu vois, qui vont avoir du contrôle très clair, mais qui par contre vont faire moins de dégâts. Tu vois, est-ce que je sais pas. Mais d'ailleurs, dans ce que je vais te demander là, ça va peut-être être induit et ça va peut-être arriver dedans, mais en restant sur ce côté très général. On va essayer aussi de parler des noms peut-être les plus mythiques qui vous ont marqué de ces strikers de pied-point qui sont arrivés en MMA. Aurélien, toi du coup, années 90, c'est le moment où toi tu brilles en pied-point, c'est là où tu prends tes plus gros titres. Et c'est aussi là que le MMA commence à se développer. 1993, création de l'UFC, le Pride arrivera un petit peu plus tard. Comment est-ce que toi, déjà, de ton œil de Nakmoué, tu vois l'arrivée de ce sport qui était un petit peu un ovni pour tout le monde?
Bah, rappelez-vous, j'étais pas un Nakmoué, hein. J'étais un kicker qui avait fait du karaté et qui ensuite est passé au Mouais. Donc, je me rappelle que quand il y a eu le Golden Trophy, il y avait Karaté Bushido, c'est un magazine, et j'avais vu les inscriptions. Et j'avais été voir Jean-Marie. Je dis, Jean-Marie, il y a une forme de combat, machin. Je crois qu'il y avait 5000. Je dis, il y a des sous. Je dis, mais il faut faire du sol. Je dis, viens, on y va. Mais tu fais du sol, toi? Non, mais après, on verra bien. Et on avait trouvé des gens qui faisaient du judo. On avait ouvert une session pour les agents de sécu de la RATP, qui le midi, et j'avais des judo 400 kilos à qui je mettais la grosse ceinture de Mouais, qui essayaient de m'attraper. Moi, je leur rentrais des genoux. C'était la curiosité, l'envie d'y aller, parce que c'était aussi le... J'étais plus jeune. On a envie de surfer sur la mode du moment. Et je le répète encore, c'était pour des raisons de multiplication de d'opportunités de combat, pour augmenter les revenus. J'étais pas spécialement amoureux du sol, mais j'étais... Je suis quelqu'un de fan, moi. Je suis admiratif des gens qui sont forts. Donc quand j'arrivais à être fort debout et que je voyais des gens qui m'amenaient au sol arriver à me soumettre, je trouvais ça super intéressant, mais j'ai pas accroché assez.
C'est marrant parce que ce qu'est en train de décrire Aurélien, en fait, c'est exactement les origines de l'UFC. Quand il y a quand t'as un sumo qui va affronter un boxeur thaï, c'est vraiment les origines. En fait, c'était ça. Baba, toi, ta vision là-dessus, mais tout le monde pouvait affronter tout le monde et il fallait juste voir qui était le plus fort. La base est là-dessus. Et donc en fait, n'importe qui venait de n'importe quelle discipline pouvait avoir un œil plutôt positif là-dessus parce qu'il y avait une grosse curiosité autour de ça.
Bien sûr, mais c'est là que tu vois que je fais pas de comparaison à qui est la meilleure époque et qui étaient les meilleurs. C'est pas vraiment le sujet. Simplement que Aurélien, il appartient à une génération de pionniers. C'est des mecs qui ont vu le truc arriver. Tu vois le truc arriver avec une certaine curiosité. Eux, c'est des gars, c'est des artistes martiaux qui se disent il y a un autre moyen de faire du combat complet, tu vois. Et quand j'entends ce que Aurélien me dit avec Jean-Marie Merchep et à son âme, du bah viens, on se débrouille, tu prends 2-3 judokas et on fait un truc. Quand j'entends ce que Greg Bouchlaguem me dit dans mon versus, qui me dit on s'enfermait dans une salle, je sais pas où là, avec trois mecs, et le gars avait révisé la technique qu'il allait leur apprendre deux heures plus tôt. Bah, tu te dis, c'est une époque de ouf. C'est une époque de ouf. Et les mecs, ils ont créé un sport comme ça. Le sport, il ne s'est pas que créé à l'UFC.
Bien sûr.
Le sport, il s'est créé dans ces salles confidentielles, à Paname.
Et à travers le monde, d'ailleurs.
Autour, ou un peu partout, tu as eu des foyers de mecs qui se sont dit, on voit c'est quoi l'idée. Bon, venez, on essaie de voir comment on y va. On va prendre un bout de ficelle, couteau, on essaie de faire un truc. Et on va voir comment ça va marcher. Et regarde la machine que c'est aujourd'hui.
Ouais.
C'est dingue, quoi.
30 ans après, machine de fou.
Franchement, à l'époque, j'avais arrêté tous ces combats-là. J'ai vu Viette faire le deuxième Ultimate Fighting, Orlando Viette. Et 3 ans après, je le boxais pour un titre en Mouais. Et quand je me suis rendu compte qu'à l'époque, on touchait pas plus d'argent en combat libre, je me disais, attends, il faut que je m'entraîne. Qu'en plus, je m'entraîne deux fois. Donc, j'ai deux entraînements en plus de sol et ma bourse est pas supérieure.
C'est pareil, ouais.
Donc, c'est ça qui m'avait découragé.
On était aux prémices,
Voilà, je suis persuadé que si à l'époque, on m'avait dit tu touches plus avec du sol, j'aurais fait beaucoup
plus. Alors, au tout début, aux origines de l'UFC, c'était les vainqueurs des tournois, des premiers UFC qui gagnaient 50 000 dollars, je crois. Enfin, des grosses sommes qui étaient réservées pour essayer d'attirer l'œil et les bons combattants vers cette organisation. Quand vous voyez tout ça, justement, quand toi aussi, tu t'y essayes avec des judokas, tout ça, est-ce que peut-être avec certaines œillères, vous vous dites, mais c'est bon, c'est le Muay Thai, c'est le pied-point qui va être le meilleur.
Mais à l'époque, on était plein d'ego. C'est quoi ce truc de chiffonnage? C'est pas un étranglement, c'est un 69 ton truc. Là, rien qu'on se moquait d'eux, c'est quoi ce sport de mecs qui s'aiment, qui se frottent le corps par terre? C'est bizarre. On était super taquins, on était. Et jusqu'au jour où tu prends une clé, et là tu dis. Mais je fais pas, t'as le mec qui fait 60
qu'est-ce
kilos.
Qu'est-ce qu'il vient de me faire?
Ça rumble.
C'est quoi
ça
rumble. Une douleur, une sensation que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que souvent les néophytes, quand ils regardent des combats du sol, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que même si tu n'as jamais pris un coup de poing, tu peux imaginer ce que ça fait. Un étranglement, un étouffement, quelqu'un qui est sur toi. J'ai vu des mecs quand je vis dessus qui étaient posés sur moi et sans rien faire et moi j'arrivais plus à bouger, tu vois. La sensation d'impuissance, la sensation d'étouffement. L'horizontalité, on est des bipèdes verticaux quand même, tu vois. Moi, généralement, quand je suis allongé, c'est pour dormir ou pour faire un câlin, quoi, tu vois. C'est pas, il y a pas un gros barbu qui est en train de m'étouffer, tu vois. Donc, toutes ces découvertes étaient particulières et on était très critiques, bien sûr que oui.
C'était l'ego, c'était l'ego qui ressortait.
Fallait se rassurer qu'on était plus fort qu'eux.
Charles, on est dans les. Enfin, il faut comprendre que dans les années 90, on est dans l'explosion du cinéma d'action, les stars. C'est Chuck Norris, c'est Jean-Claude Van Damme, c'est Bruce Lee, c'est Jackie Chan, c'est des mecs, je vais te dire des noms, tu vas flipper. Donc pour nous, la vérité, ouais, c'est ces mecs-là.
Et c'est le strike, c'est la percussion.
C'est le kickboxeur de Jean-Claude Van Damme.
Voilà, parce qu'à la fin, c'est toujours le mec qui combat comme ça qui gagne dans tous ces films-là. Mais, donc quand on voit un petit mec, un petit Brésilien, là, avec un kimono, qui vient, qui Royce soumet Gracie, tout le monde. Moi, le mec qui me donne la cassette, j'y mets ton truc, il est fake, parce que c'est pas possible.
Alors, justement, toi, c'est quand le retour à la réalité, on va dire, le moment, est-ce que c'est toi en le subissant toi-même, ou tu dis, ah ouais, ok, donc un mec de 60 kilos, ou même pas, toi, tu combattais en combien?
Je combattais, j'ai commencé en moins de 72, j'ai fini en moins de 90, j'étais à moins de 80 kilos, à peu près, 80 kilos.
Est-ce que ça t'est arrivé, justement, de voir un petit mec de 60 kilos débarquer, d'essayer de le taper, qui te colle et qui tu te retrouves à te faire étrangler par lui? Est-ce que c'est ça la première piqûre de rappel, ou alors c'est de voir un Royce Gracie qui va étrangler des gros costauds? C'est quoi la piqûre de rappel, le truc où tu dis, ah, ok, finalement, c'est ça?
Vous savez que j'aime bien les images, je peux te parler du mafé, là, je peux t'en parler des heures du mafé. Tant que tu l'auras pas mangé, tu sauras pas. Ok. Vous saisissez. Ouais. C'est dans les premières pratiques, les cours avec Bertrand Amoussou. Déjà l'entraînement, le fait de rouler, de porter l'autre, tu vois, des choses différentes, d'avoir un poids de corps sur toi. Je me dis, ah ouais, c'est quand même plus compliqué. Puis les premières clés, puis les premiers randoris libres, où tu te sens immobile. Tu sais, c'est pas normal. Debout, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à décaler. Aller, et là, je suis impuissant. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que, ah ouais, c'est pas de la gnognotte, la lutte, tout ça. Le premier lutteur qui m'attrape la main, un lutteur sénégalais qui m'attrape, et mes os du poignet, ils font... Et le mec faisait 60 kilos. Je dis, oh là là, mais quand un mec de 80 va m'attraper, qu'est-ce que ça va me faire? Donc oui, je pense qu'on avait fortement sous-estimé la puissance de... du 80% des combats de rue finissent au sol. Le samouraï a une arme longue, des armes courtes, des pieds, des poings et des étranglements. Regardez dans Opération Dragon, Bruce Lee, ils ont les gants doigts libres. Ils finissent avec des étranglements, des clés de bras, des choses comme ça. Donc ça fait partie de la palette du combattant. J'ai l'impression, moi, que le MMA, c'est un retour aux sources. Un combattant doit savoir striker et lutter. Ils n'ont rien inventé, c'est un retour aux sources.
Et alors, c'est qui, vous, amoureux du pied-point, qui est, étant donné que l'UFC, quand ça débute, c'est Gracie, donc on a cette air où on se dit, étrangler, ça va peut-être être plus fort que de taper. On commence à se dire ça quand on voit Gracie détruire ses adversaires. C'est qui le premier combattant MMA qui, grâce à son pied-point, vous fait dire, ah, mais finalement, il y a aussi une brèche pour nous, il y a aussi quelque chose à faire là-dedans?
Avec qui frapper? Il y avait Tank Abbott.
Ouais, tu tapais fort, il y avait des cogneurs.
The Iceman, là, comment il s'appelait?
Chuck Liddell, c'est un peu plus tard, c'est un petit peu plus tard.
Non,
est-ce qu'en années 90, il y a un mec, toi, Baba, qui on va dire, est le meilleur porte-étendard du pied-point dans le MMA?
Évidemment, c'est un croate.
Mirko Krokop.
Au Pride, au moment où il part au Pride, Mirko Krokop, c'est probablement le meilleur kickboxer poids lourd du monde. Il vient de battre Metcao Rémi Boniaski, tout le monde pense qu'il vient de battre Mark Hunt, qui a mis KO Jérôme Le Banner, alors que Le Banner en 2002, c'est peut-être lui le meilleur. Donc là, tout le monde se dit, ouah, c'est chaud. Et le mec, il dit, je vais en MMA. Le prêt, ils m'ont fait une trop bonne offre, on comprend pas. Et on se dit qu'au sol, ça va être compliqué. Et avec les sprawls, avec sa manière d'annuler la lutte de ses adversaires, là, tu te dis qu'il y a quelque chose. Mais moi, je vois ça, on est au début des années 2000, mais c'est parce qu'au début des années 2000, j'ai 15-16 ans. Et quand je fais mes recherches derrière, que je me plonge dans le MMA, je me rends compte que le Maurice Smith est très important. Maurice Smith...
Donc ça, c'est un petit peu avant Mirko.
C'est bien avant.
Fin 90, milieu 90, fin 90.
Voilà, lui, il bat Mark Coleman, qui est un petit peu le père du ground and pound, hein, donc ramener son adversaire au sol, le tabasser. Il fait ça à tout le monde, il bat tout le monde, il gagne le tournoi du UFC, il gagne le tournoi du Pride, et puis Maurice Smith, il le garde debout et il lui massacre les jambes avec des low kicks. Et là, tous les strikers, à mon avis, du monde se disent « Ah, mais c'est comme ça qu'on peut faire, on y va ». Ils sont arrivés massivement ensuite dans le MMA.
Peut-être, alors justement, on va essayer de fonctionner un peu par décennie. Donc là, on a parlé années 90, prémisse de l'UFC, assez peu d'événements finalement dans ces premières années de l'UFC. Il y a aussi des galères financières.
Il fallait fournir les cassettes, il fallait avoir un caméscope, quelqu'un qui a une cassette, il fallait avoir un réseau. C'était une tannée. Hein.
C'était une tannée, pour la diffusion du MMA, en tout cas à l'international, c'était vraiment très très compliqué. Début des années 2000, du coup, c'est là que l'avènement du Pride, qui a été créé, je crois, en 97 ou fin 90, mais qui vraiment explose, avec des gros champions qui arrivent début 2000. Peut-être que le symbole, le plus grand public et assez parlant pour ce qui est du pied-point, c'est Wanderlei Silva aussi, qui va arriver avec l'école brésilienne et la shootbox, qui elle va avoir une énorme influence et qui l'a encore aujourd'hui sur le MMA.
Ouais, en plus c'était du MMA différent, parce que le Pride, t'avais les pénalties qui étaient autorisées, un coup de pied tête d'un adversaire au sol, ça change
aussi là.
Exactement, écrasement de tête, tout ça, ça change le combat, mais ils ont ramené une violence dans le truc, si tu veux, avec leur striking, qui est pareil, je pense, a beaucoup influencé des combattants. Ils ont dû susciter des carrières, hein, clairement, des vocations. Ouais. Wanderlei Silva a suscité la carrière de Maurice Shogun, qui est devenu le champion qu'on a connu derrière. Donc oui, c'est vrai que eux, ils sont... Moi, en tout cas, comme je dis toujours, le MMA et le combat, c'est beaucoup Japon. C'est le K1 dont j'étais fan, c'est le Pride. Donc moi, tu te dis bien que quand je regarde les mecs de la Shootbox et Crocop, je suis bien.
Shootbox aussi, Aurélien, pour toi, c'est une référence?
Oui, ça m'avait réconcilié un petit peu, parce que moi, l'idée du kimono et que du sol, ça m'embêtait. Là, je voyais, ils savaient mettre des low kicks, ils avaient des genoux, même si leur tight clinch n'était pas terrible, mais en tout cas, il y avait une intention. Et ouais, ça m'avait vraiment réconcilié. J'étais faire un stage au Brésil et je m'étais entraîné et en jujitsu et en, comment dire, en lutte à libre. Ouais. Et c'était, ouais, ça me réconciliait parce que la partie percussion reprenait un peu plus de place que uniquement. On voyait bien Gracie, il faisait tout rien que pour saisir, il voulait surtout pas rester debout, il n'y avait pas d'échange debout. Ouais. Alors qu'eux acceptaient un petit peu l'échange debout, et puis après ça pouvait amener au sol.
D'ailleurs, la shooter box qui, dans les années 2000, va se prolonger aussi avec Anderson Silva qui arrive à ce moment-là, et qui du coup perpétue un petit peu ce style qui se prolonge. Est-ce que ce qu'a fait Silva, c'est aussi une prolongation pour toi de ce qu'a fait Wanderlei? C'est la même école vraiment qui s'est développée au fil du temps? C'est-à-dire, est-ce qu'Anderson, c'est une sorte de Silva 2.0, tu vois, dans la manière aussi d'aborder les combats, dans ce côté mentalité de champion avec tous les records qu'il a battus derrière Silva?
Ouais, Anderson Silva, c'est particulier parce que ouais, c'est vrai qu'il était avec eux pendant un temps. Bon, après, il y a eu des embrouilles parce que lui aussi, il a sa part d'ombre. Et sa part d'ombre, elle est ombrageuse. Hein, parce qu'il y a des histoires qui commencent seulement à sortir, notamment une où il se fait tabasser à l'entraînement et qui revient avec un gun pour... pour régler l'affaire autrement. Mais c'est vrai que lui, c'est un électron libre qui était à la shooter box et puis aussi qui est parti chez le rival ensuite avec les frères Noguera, avec la BTT. Donc, par contre, moi j'ai kiffé parce que au Japon, c'était un peu plus dur pour lui parce que le niveau est élevé en pied-point, tout ça. Et puis il arrive aux États-Unis et regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé, s'il te plaît. Il a régné, il a encore les records aujourd'hui.
16 victoires d'affilée,
il a encore le nom.
Anderson Silva.
Il a encore le nom.
Alors, il y a Islam,
il y a Islam
Marachev
qui vient de l'égaler cette année, quoi.
Ouais, 16 victoires d'affilée.
16 victoires d'affilée, dont cette victoire, bien sûr, comprennent tous ses combats pour la ceinture. Donc, c'est face à une adversité qui est juste énorme pour Anderson Silva.
C'est quand même exceptionnel. Et là, tu te dis, pour les amoureux du pied-point, t'es un peu content. T'es content quand même, parce que tu dis, ok, là. Après avoir un peu galéré, après avoir été déçu, tu te rends compte que si, finalement, le pied-point, c'est quand même quelque chose. Je rappelle que moi, je suis un judoka de base. Donc je savais ce que faisait le sol, mais j'avais décidé d'arrêter le judo parce que pour moi, c'était pas la forme de vérité en termes de combat. Moi, j'étais avide de faire des katas de kiaï, de crier, de mettre des coups en criant, etc. Sauf que c'est le muay thai qui m'apporte ça. Tu vois. Mais quand tu vois que le striking marche avec Anderson Silva notamment, et lui, ce qui va susciter pour un mec comme John Jones, surtout sur son striking à John Jones, C'est une influence, mais de malade, en fait.
Toi quand Anderson Silva est là et commence à faire des très gros combats, tu es encore actif, hein, tu combats encore. Tu te souviens d'avoir un œil intéressé là-dessus, en disant quand même, le MMA, c'est en train de prendre une place assez importante. Ça commence aussi en France, avec les cassettes, comme tu dis, à l'époque. RTL9 aussi arrive un petit peu dans le game à pouvoir diffuser. T'as un œil qui commence à être un petit peu plus intéressé sur ce qui se fait outre-Atlantique?
Pas tant que ça, parce que je suis retourné à mes premiers amours qui étaient le pied-point. J'avais eu cette déception un peu de m'entraîner beaucoup en France et de ne pas avoir d'opportunités. Après, puis j'avais vu aussi moi, le Pride et tout ça. Ouais. J'avais les catégories de poids. Je peinais à être à 80 et toutes ces catégories-là, souvent, c'était des catégories au-dessus. Donc, fallait que je prenne 5 ou 10 kilos de manière pas naturelle, tu vois. Je préférais vraiment après retourner au pied-point. Et dans les phases de MMA, j'attendais le chaos, la frappe la supériorité ou la domination du striking, quoi, bien sûr. Ouais.
Peut-être que début de la décennie 2010, ça se prolonge aussi un petit peu avec José Aldo, qui est peut-être la figure la plus marquante entre 2010 et 2015, grâce à son règne, qui l'amène jusqu'à McGregor en décembre 2015, la défaite et du coup la fin du règne de José Aldo. Mais c'est peut-être encore une fois le pied-point qui va dominer ce début des années 2000.
Ouais, exactement. Et en plus, ce qui est super avec José Aldo, c'est que c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. De base, c'est un grappleur de base. Quand il quitte sa région pour aller à Rio et dormir dans la salle et tout, qu'il est dans la plus grande précarité, il fait du jiu-jitsu pour pouvoir essayer de s'en sortir et de faire des compétitions. Puis ensuite, il découvre le MMA. Et regarde, il a choisi de faire tous ses combats debout, d'utiliser sa boxe qui est exceptionnelle, ses low kicks, où il a pété les jambes de la plupart de ses adversaires en début de carrière. Parce qu'encore une fois, quand tu as cet apprentissage du Muay Thai, tu as une avance considérable sur des combattants qui s'entraînent le lundi en pied-point, le lundi le matin en pied-point, le mardi après-midi en lutte, le mercredi matin en jiu-jitsu, le mercredi après-midi en je sais pas trop. En face, t'as un mec, pendant 5 ans, il a fait que du Muay Thai. Il a perfectionné son jeu. Et puis tu sais, quand tu fais du Muay Thai, je te le raconte de temps en temps, quand tu vas en Thaïlande, toi tu peux arriver en Thaïlande en pensant que t'as un bon middle kick. Tu vas envoyer ton middle kick au sac, le crew il va te mettre devant le sac, et va dire « again, again, again ». Et tu vas envoyer 1000 middle comme ça, pendant tout l'après-midi, jusqu'à ce que ce soit le geste parfait. Et ensuite, quand tu l'envoies sur quelqu'un, ce middle… Et ben José Aldo, il a pété des jambes comme ça parce que il a fait low kick. Low kick, il était avec Pedro Rizzo, qui est aussi un striker très important du MMA, un poids lourd à l'ancienne, qui a formé José Aldo là-dessus et qui était connu pour ses low kicks. Et il a dit tu vas travailler ça, tu vas voir, ça va marcher, ça a super bien marché.
Wanderlei Silva, Anderson Silva, José Aldo, tout ça, c'est des noms qui t'ont quand même
bien
marqué
sûr,
aussi.
Bah, bien sûr que oui. Ouais. Oui, bien sûr que oui. Je regardais les cassettes, je regardais les combats. J'étais à haute tension jusqu'en 2000 et même après, j'avais encore des contacts avec plein de combattants. Ouais. Et ouais, ils me partageaient un petit peu les combats, mais je restais quand même un amoureux du pied-point.
Alors, pendant qu'il y a ces Brésiliens là qui sont en train d'exploser, là il y a un truc qui se trame dans les montagnes du Daguestan.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Avec des mecs qui tapent un petit peu ça quand même, mais qui vont surtout beaucoup, beaucoup lutter, beaucoup grappler. Et finalement, 2015, voilà, de milieu de la décennie 2010, qui vont venir apporter autre chose à l'UFC jusqu'à ce que Khabib explose aux yeux du monde et batte McGregor en 2018.
Ouais, il y a la lutte. Hein. Vraiment, ce qu'ils ont ramené, c'est exceptionnel. Mais il faut pas oublier l'influence de Georges Saint-Pierre sur ça.
Ouais, c'est
vrai qui n'est même pas un lutteur de base, mais qui est devenu tellement bon à la lutte qu'il a battu les meilleurs lutteurs universitaires des États-Unis en MMA et tout. Et on sait que Khabib est un grand fan de GSP, qui l'a beaucoup inspiré. Mais c'est clair que quand ces mecs-là, ils arrivent et que tu commences à comprendre qu'au très haut niveau, ça fonctionne ce qu'il faut, là, tu dis c'est la merde. Hein. C'est la merde pour les combattants, les strikers. Tu dis c'est un peu la merde pour les fans de pied-point qui disent ils vont prendre n'importe qui, ils vont les mettre au sol, ça se relève plus, tu vois.
Ouais.
Et ouais, et on y est encore aujourd'hui, même si ça s'est rééquilibré, mais on y est encore aujourd'hui. Ouais.
Quand tu vois un mec comme Khabib, toi qui es combattant pied-point, c'est quoi le sentiment primaire que tu as devant ta télé? Tu vois, quand tu penses au gars qui est en face de lui, qu'est-ce que tu dis, toi, en tant que combattant? Tu te dis, ouais, si j'avais ce mec-là face à moi.
Ne te fais pas attraper, mec.
Ouais, mais
ça, fais pas attraper.
Ouais, mais vu qu'un mec comme ça, ce qui est fort, c'est que tu sais que tu vas te faire attraper.
Oui,
tu sais pas quand, tu sais pas dans quelle position, tu sais pas, mais tu sais que tu vas te faire attraper. Ouais. T'as quoi? T'as presque de la compassion pour ces mecs-là? Je crois que contre Trujillo, il réussit 25 takedowns, il me semble, dans le Khabib. Enfin, c'est le record. Je crois qu'en un combat, je suis pas sûr qu'il l'ait battu, Merab, sur. Il est un peu en dessous. Mais ce côté inéluctable qui arrive avec les Daguestanais, qui avec leur contrôle, leur puissance et leur technique en lutte vont réussir à t'amener au sol à la main, ton sentiment, c'est quoi devant ta télé?
Comme je t'en parlais, au-delà de la technique, ce que j'aime bien, moi, c'est l'énergie dans laquelle est le combattant. Et ces mecs-là, ils ont faim. Tu vois, ils sont là pour faire le taf, quoi. Tu vois, il y a une espèce d'humilité. Souvent, je crois que c'est des Russes mélangés avec des musulmans, en gros, quoi. Ouais. Il y a le côté un petit peu dur de l'Est, le côté musulman, le côté pieux, la prière, le respect, tu vois. Donc, je trouvais ça intéressant. De la nouveauté, déjà. Tout ce qui est nouveauté, on adore. Et j'aime bien leur style rugueux, dur. Et j'ai l'impression que leur lutte, elle me plaît, quoi. Leur manière de travailler le sol et l'excellence, c'est ça qui me rend fan.
Ouais, c'est ça.
L'excellence,
ouais,
une maîtrise, quoi.
Ouais,
comme une fois qu'il t'a mis la main dessus.
Ouais, parce que en fait, Baba, à cette époque-là, fin milieu 2010, on arrive avec aujourd'hui en France le symbole qui est Saladin Parnasse, mais on arrive avec des mecs qui ont commencé par le MMA.
Des bébés MMA. Ouais.
En fait, c'est ce qu'on n'avait pas connu avant, parce que le MMA était un sport jeune. Et là, ça y est, t'as des mecs qui peuvent être nés dans les années fin 80, début 90, et qui, quand ils ont commencé les sports de combat avant leurs 10 ans, disons, et ben, ils ont potentiellement pu commencer directement avec le MMA. Et ça, dans le MMA actuel qu'on a depuis 10 ans à peu près, ça fait toute la différence.
Ah bah c'est clair, quand tu dès ton plus jeune âge, c'est le moment où tu peux répéter le plus les entraînements, ton adolescence quelque part. Quand t'es adulte, c'est un choix conscient, mais c'est un choix difficile. Mentalement, c'est avec la vie qui va avec, selon comment ta vie va se dérouler, c'est pas si simple que ça. Quand t'es ado, moi je kiffais la vie d'athlète quand j'étais ado, parce que tu réfléchis pas. Lundi, bah c'est entraînement, mardi c'est entraînement aussi, mercredi bah c'est encore entraînement. Ta journée, elle se passe tranquillement à l'école. Tu sais qu'à la fin de la journée, tu vas aller t'entraîner. Il y a zéro difficulté là-dedans. Au contraire, tu retrouves les poteaux, tu trouves un environnement où tu domines.
Ouais.
Tu vois, donc, ouais, c'est clair que les bébés MMA qu'on a aujourd'hui, ça rend les choses belles à regarder parce qu'ils vont maîtriser toutes les distances de combat, même si je reste persuadé quand même que tu vas diluer un petit peu tes talents quand tu vas essayer de savoir tout faire. Quand je regarde un mec comme Parnasse, bah, c'est debout hein, que ça se passe. Hein. C'est debout que ça se passe et c'est debout que ça se passe très très bien pour lui. Ouais.
Mais s'il faut aller au sol, bon bah,
tu vois. Enfin, voilà, il y a sans aucun problème, ouais, il l'a montré.
Chacun contre, a ses préférences, mais.
Ouais. Voilà, j'ai revu le combat d'ailleurs, parce que le jab là, qu'il envoie le premier jab à la rupture de contact là. Oh là là. Si son adversaire il tape le sol, tu l'en veux même pas en fait.
Ouais.
Et c'est même pas pour la puissance, hein. C'est que ça va tellement vite que je suis persuadé que lui il a pas compris que c'était quelque chose, que c'était un jab, tu vois. Et ouais, qu'il s'est juste dit, il y a un truc, ouais, qui sont deux. Quoi.
Pour revenir sur ce que tu dis, je remarque aujourd'hui, j'ai des combattants qui ont connu le MMA par le MMA qui viennent avec moi pour faire du pur muay ou du pur kick. Ouais. Et ils vont voir des mecs d'anglaise pour faire de la pure anglaise. Et ils vont voir des judokas pour faire du pur judo.
Ouais, c'est vrai.
Donc on peut se rassurer que toutes les salles de puristes, il y aura toujours du monde. Ouais. Et que ces combattants très polyvalents, bah parfois quand ils veulent vraiment progresser dans un secteur, il faut qu'ils aillent voir des puristes.
Toi, si tu avais 14 ans, 13 ans, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que tu crois que tu irais vers le MMA ?
Je pense que, ben oui, à 14 ans, on est super influençable. Ouais. Surtout pas. Pourquoi on donne autant d'avis à la jeunesse ? Parce qu'à 14 ans, comme je disais, je ne sais plus quel rappeur, à 18 ans, t'es qu'un petit con, il n'y a qu'à toi qu'on ne l'a pas dit. Et bien sûr que oui, on est influençable. J'aurais suivi le courant. J'ai fait du basket en 87 parce que la Jordan Mania arrivait, Canal Plus, le basket. Le fait de voir des choses, ça nous inspire. Le fait de voir aussi les phénomènes de mode, que les gens y vont. Ouais. En plus, l'opportunité financière, le moyen d'être connu, de sortir de l'anonymat. Complètement, j'aurais été un enfant du MMA, j'en suis persuadé.
Et donc, pour revenir à notre chronologie, bah on arrive quand même à une période où il y a ces lutteurs qui sont là, mais il y a un duel début des années 2020 du coup qui arrive et qui prend beaucoup de lumière, c'est ce Adesanya contre Poatan. Donc on revient chez les moins de 84 kilos à du pied-point qui a été aussi beaucoup façonné par l'UFC parce qu'il voulait monter un storytelling qui a cartonné et qui a aussi permis de vendre beaucoup. Toi, Baba, c'est un moment où justement, après ces années très symbolisées par Khabib, qui aussi commençait à ramener ses élèves avec Abdulmanap, etc., ses disciples, on va dire, ce duel pied-point, il te fait du bien. Tu te dis, tiens, on va peut-être pouvoir revenir à une ère qui va peut-être plus me faire kiffer parce qu'on va revoir du kick, on va revoir du mouet à l'UFC.
Bah, moi, à titre personnel, évidemment que c'est mieux, mais à ce moment-là, moi, je suis un peu... j'étais réticent avant ça, de suivre le MMA aussi assidûment qu'aujourd'hui, mais au point de l'analyser. Avant ça, non. Avant, franchement, jusqu'à 2020, je le suis parce que je suis un fan de toute forme de combat, bien sûr. Et je suis sénégalais, n'oublions pas. Donc la lutte sénégalaise, ça fait partie de mon ADN.
Le bélé.
mais ouais, donc je suis plus... En fait, je suis plus content pour les fans en règle générale, que je me dis... Ça fait longtemps que vous regardez un sport avec des combats qui se passent beaucoup debout, mais vous n'avez pas l'essence de ce qu'il peut avoir. Et avec ces deux-là, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment... Voilà, là, vous avez deux strikers d'élite face à face. À quoi ça ressemble un combat avec deux strikers d'élite ? Bah, regardez ça, les mecs. Regardez. Ils se sont fait deux guerres déjà. Ils ont fait une troisième en MMA, puis une quatrième derrière. Les deux rounds de la revanche entre Pereira et Adesanya à l'UFC, ou celle où Adesanya met KO Pereira, mais regardez, s'il vous plaît, mais c'est le plus haut niveau que tu vas avoir en striking, vraiment.
Quand tu t'installes devant ta télé avec tes popcorn et que tu dis « je vais me voir ça », tu t'attends à voir un combat de MMA ou un combat de kick ?
Non, je sais que j'aurai un combat de kick.
Pure kick.
Adesanya me surprend dans le premier.
Tu mets des cordes et t'enlèves la cage.
Ah oui,
et
pour moi, c'est un combat de kick. Parce que c'est du kick. Tu sais, Adesanya, il n'a pas tort d'essayer de l'amener au sol dans le premier combat, mais il voit bien qu'il se fatigue. Il voit bien qu'il se fatigue en le terminant pas et que derrière, il se fait mettre KO. Donc là, il se dit « ok ». En fait, en kickboxing, je l'ai dominé deux fois. La première fois, je me fais un peu voler. La deuxième fois, je le domine, puis je me fais mettre KO. Donc, en fait, ça marche. Je suis capable de battre ce mec avec mes armes, comme l'a dit Aurélien tout à l'heure. Bah, il est revenu à ses armes. Les deux arrivent au top. Ils arrivent au top de leur forme, les deux. Et ça donne un super combat.
Tu suivais beaucoup l'UFC aussi, il y a 5-6 ans, quand ça arrive, ce Poatan
Adesanya. Oui, j'ai regardé.
Pardon, mais est-ce que c'est des duels que tu avais aussi suivi en pied-point avant, ça ?
Non seulement j'avais suivi, mais j'avais même commenté Adesanya. Il combattait au Kung Lung, je crois.
Exactement.
Ah, au Kung Lung Fight.
En Chine, je l'avais commenté.
Ça, c'était peut-être sur Combat Sport.
C'était sur Combat Sport.
Je l'avais commenté plusieurs fois. J'étais super surpris de le voir passer et super intéressé. Et oui, j'ai regardé ce combat-là. Et c'était génial, parce que comme tu le dis, il y avait beaucoup de phases debout. C'était plus compréhensible et plus visuel. Voilà, on est dans le monde du visuel, 80% je crois, de nos informations sont visuelles, et souvent un étranglement, une clé, en termes de mouvement, de champ d'action, c'est restreint, on voit pas. Alors qu'un coup de pied, un coup de poing, ça prend de la place, c'est aérien, et tout de suite, c'est plus parlant pour les yeux. Ouais. Donc, j'ai adoré leur confrontation aussi dans la cage.
On rappelle que le fil rouge, quand même, de cette. J'ai kiffé vous entendre, là, justement, sur les années 90. Non, mais ça, voilà, comme toujours, ça rappelle des souvenirs. J'aime bien ces épisodes-là aussi dans le Fighter Club. Il nous reste très peu de temps, mais on va recentrer un petit peu sur le Poatan contre Cyril Gane. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Cyril Gane, c'est un combattant 100% MMA ?
Oui. Oui, oui, sur combattant de MMA, c'est rien. Ça fait des années maintenant que c'est ça. Et puis, il a passé plus de temps à faire du MMA qu'à faire du Muay Thai maintenant.
Ouais, c'est ça, c'est vrai.
Donc, c'est un combattant de MMA, ouais.
Qu'est-ce que vous attendez à voir maintenant ? On a dit que peut-être, bah oui, s'il allait lutter, s'il allait coller, ça pourrait lui profiter. Mais tu as aussi dit que quand Izzy a essayé de le faire, bah, il s'est fatigué, mais il avait peut-être moins de capacité à pouvoir emmener Alex Pereira au sol, qui aujourd'hui, par rapport à l'époque, bah, a pris aussi beaucoup de poids et donc il est dans une autre catégorie. Il est aussi plus difficile,
c'est pas,
forcément.
C'est pas un vrai lourd, Pereira. Hein, il est monté.
Non, non. Ouais. Il est passé de moins de 84, ensuite champion moins de 93, et désormais, il va challenger la ceinture intérimaire chez les poids lourds. Donc, gros écart de poids, mais il galérait à faire moins de 84, notamment à l'UFC. C'était très, très compliqué pour lui. Okay. Quel combat tu t'attends à voir ? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer, Baba, dans ce fight ?
Non, ils vont combattre debout. Ça va être un combat majoritairement en striking. Maintenant, Cyril, s'il y a une opportunité, il ne s'empêchera pas, tu vois. Si dans un clinch, il y a une opportunité de l'amener au sol, il le fera, et puis pourquoi pas travailler ? Pourquoi pas même travailler sur une soumission ? Mais chacun est très confiant dans ses qualités debout. Chacun apporte quelque chose, apporte le très haut niveau. Ils apportent tous les deux le très haut niveau du striking. Chacun dans un style caractéristique, bien différent l'un de l'autre. Chacun sait ce qu'il doit faire. Pereira doit le toucher, il doit comprendre aussi qu'il combat un vrai poids lourd, qu'on bat un mec de 120 kilos qui fait 120 kilos depuis tout le temps. Pereira, Pereira, je vois partout qu'il fait plus de 100 kilos, etc. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de.
C'est du poids pris tardivement.
Ouais, tu vois, c'est pas pareil. Donc, et puis, à 38 ans, je crois, Pereira. Ouais. Donc, tu me dis que tu fais une prise de masse consciente, calculée à 30 ans. C'est pas la même chose que de dire bon, là, je mange comme je veux, puis je m'entraîne, et puis j'arrive à 100 kilos, 105 kilos pour le combat. Donc ouais, c'est pour moi ce sera un combat debout.
Six mois que toi qui as vécu toutes ces cuttings, tous ces problèmes liés au poids dans une carrière de combattant, tu penses que on va dire depuis six mois qu'il a pris cette masse, qu'il s'est habitué à cette masse corporelle qu'il va avoir en plus, qu'à l'entraînement il s'entraîne avec ça, est-ce que tu penses que c'est suffisant pour pouvoir arriver assez confiant par rapport à ce domaine-là, se dire je suis un vrai poids lourd?
Je pense qu'avec son niveau de confiance et ce qu'il a prouvé, c'est suffisant pour lui. Maintenant, il y a une autre donnée, la donnée physiologique et structurelle du corps. Ça va te parler du combat contre Dany.
Ouais, exact.
Dany, je ne l'aurais jamais battu dans sa caté. Dany est monté, on a boxé en moins de 80. Mon petite crotte de nez, je ne l'ai jamais vu à la pesée. Hein, mais je savais qu'il serait au-dessus, donc j'étais parti après ma pesée. Salut Dany.
Je ne confirmerai pas ni n'infirmerai cette information.
Pour vous donner l'image, imaginez une charpente pour une maison faite pour supporter un étage. Vous en rajoutez trois. Ça fragilise la charpente. Donc, on peut prendre du muscle, on peut prendre en confiance, mais la charpente osseuse, son corps était fait, quand il boxait à Adesanya, au Kung Lung, c'était à combien ?
80
kilos, tu vois ? Donc, est-ce que la structure osseuse va supporter ? Est-ce que les impacts ? Quand je suis monté j'ai réussi à monter jusqu'à 80 kilos et je voulais passer à 90. Un mec qui m'a dit avec une piqûre magique, là, tu prends, avec deux piqûres dans l'année, tu prends 10 kilos. Je m'étais posé la question hein, et j'avais été tourné avec le banner. Mais il m'a mis un middle, j'ai fait le diapason. J'avais dit, Jérôme, il a cru un peu. Tu vois, le truc qui vibre là. Pendant 3 minutes, je fais comme ça. Et je pense véritablement que ça peut faire une différence sur le long terme, la catégorie de poids. Et si Cyril arrive à l'amener au sol, mais en tout cas, je sais que ça fera un super combat. Je leur souhaite le meilleur et on va se régaler debout. Quoi,
ouais. Et par rapport au poids, quel impact positif d'une préparation où tu n'as pas à penser au poids, justement ? Quel côté positif ça peut laisser peut-être sur le mental, sur la préparation d'un poids qui avait beaucoup de mal à faire le poids et qui donc sur ces dernières semaines notamment ne devait être focus quasiment que sur cet objectif de faire le poids. Ça il peut le balayer, ça y est, il faut juste qu'il fasse moins de 120 kilos, c'est tout.
Ouais, et je crois que là ça peut jouer en sa défaveur dans le sens où l'un des premiers combats c'est le poids de la balance. Ouais. C'est une soirée entre toi et toi, tu vois. Donc le fait d'avoir cette discipline, j'ai combattu une fois en moins de 85. J'avais plus de soucis et j'ai l'impression que je m'étais un petit peu déconcentré et un petit peu ah tiens, il y a un truc facile dans ce qui est d'habitude. Pour me préparer à l'adversité, il faut que la préparation soit pleine d'adversité. Ouais, ouais. Donc peut-être que ça peut mettre un petit peu de détachement, un peu de lâcher prise et faire baisser la garde un petit peu.
D'accord, Baba, peut-être s'enlever un petit challenge mental qui du coup peut se ressentir dans la cage aussi.
Ouais, après quand il faisait son cutting pour la 84, c'était extrême. Donc moi j'ai toujours pensé que 93 c'était une caté parfaite pour lui. Ouais, il était bien.
Il l'a prouvé.
Là, 100 kilos, plus de 100 kilos, c'est différent. Et je suis plutôt d'accord que tu t'installes dans une forme de complaisance quand t'as pas ce combat-là à faire. pas le combat dans l'extrême dans lequel font les combattants de MMA aujourd'hui. Je le dis, je répéterai toujours, ces pratiques de cutting là, moi j'y arriverai jamais, c'est comme ça. Donc dans une mesure acceptable, c'est normal, chaque combattant a dû perdre du poids pour aller en compétition, c'est logique, 4, 5 kilos, je sais pas.
C'est tellement énorme, nous à l'époque, c'était, moi j'étais 1 ou 2 kilos.
Ouais, bah, non mais nous c'était...
3, aujourd'hui je vois des moins 10 kilos.
Nous ça n'existait pas, enfin je t'ai dit, comme je dis à tout le monde, nous t'avais un tableau Velleda, je sais pas si tu venais souvent à la salle de Rachid, il y avait un grand tableau Velleda avec écrit ton nom, le poids, et la date, souvent c'était dans 6 jours, donc je t'explique, tu pouvais pas être à 10 kilos de plus, ça n'existait pas ça. Donc non, il n'y avait pas de cutting comme ça, c'est combinaison de sudation, corde à sauter pour perdre 2 kilos, parce que voilà quoi, tu vois, c'était pas non plus une super pratique, hein, parce que tu perds de l'eau. Mais en ayant toute proportion gardée, c'est vrai que tu peux tomber dans une forme de complaisance. Ok, je mange ce que je veux, ok, c'est cool, j'ai pas besoin d'eux, je... Ouais. On va voir. Moi, j'y crois pas à l'histoire qu'il va arriver à 110 kilos.
Non.
Moi, je pense qu'il va arriver autour de 100 kilos. Ouais. Il va faire quelque chose quand même qui lui permet d'être athlétique. Ouais.
Je pense qu'entre les lignes, dans le Baba versus Fernand Lopez, avait aussi dit ne croyez pas que Alex Pereira va arriver. En fait, je suis gros, je me repose un peu là-dessus. Il va arriver prêt, il va venir prendre la
comme l'a dit Aurélien tout à l'heure, ce mec-là, il est pas comme nous. Hein. Ouais. C'est un assassin. Le mec, dans sa tête, c'est sombre et
son regard, il
switch et voilà quoi, tu vois.
Chama. Tu l'as le Chama. Le faire en regardant la caméra, Chama. C'est sa gimmick. Chama, c'est ce qu'il dit tout le temps. D'ailleurs, il se fait charrier aux États-Unis en disant dès qu'il y a une conférence de presse, il dit Chama, parce qu'il parle mal anglais.
D'accord.
Donc voilà, il se fait. C'est à la fois sa faiblesse et sa force, le Chama.
Je l'avais vu pour Watan, dans l'Amazonie, là, avec les masques et ses peintures traditionnelles. Et j'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression que ce côté un petit peu chevaleresque, ce côté un petit peu animal, guerrier, t'es prêt à faire couler le sang, quoi. Rappelez-vous que nous, on combat dans des espaces sécurisés pour passer à la télé pour une somme d'argent. À la base, le combat, c'est pour éviter que ta famille se fasse tuer et pour sauver ta vie. Donc quand tu viens avec cette dimension-là et cette motivation-là, ça apporte quand même une différence.
Ouais, l'UFC Freedom 250 à la Maison Blanche, ce sera donc dans la nuit du 14 au 15 juin et ce sera sur AMC Sport avec Baba qui sera dans le dispositif.
Oui, on sera ici en plateau avec Thomas Desson, avec toi aux manettes comme d'habitude. Et on prépare quelques surprises, ça devrait être bien.
Ouais,
c'était une première surprise celle-là, je suis très content.
Ouais, c'était un épisode super cool. Soyez au rendez-vous dans la nuit du 14 au 15 juin. Un grand plateau avec des surprises, beaucoup d'invités, beaucoup de reporters aussi. JRI, Community Manager et Flora Moussi qui sera sur place pour récolter les interviews, les témoignages des gens qui seront autour de cette Maison Blanche. Aurélien, c'est un combat, c'est une soirée que tu vas regarder aussi?
Complètement, bien sûr. Ouais. Je vais me mettre avec des potes quelque part à l'écran géant. On va sortir les popcorn et passer une belle soirée.
Popcorn salé ou sucré?
Neutre, peu de nature.
Et toi, Baba?
Pourquoi tu veux que je mange des morceaux de papier? Donc, des morceaux de papier sucré ou salé, c'est des morceaux de papier.
Tu n'aimes pas les popcorn?
C'est affreux, le popcorn.
Ah non, moi j'adore, j'en ai pris au cinéma encore le
temps. C'est affreux.
Il y a un côté un peu plus diète en plus, Aurélien, tu confirmes que le chocolat, par exemple. Popcorn, c'est pas très. C'est assez sain, ça reste du maïs finalement.
C'est du maïs, c'est un céréal,
maïs soufflé,
c'est
cuit. Voilà.
Apparemment, on n'est pas des chevaux, donc manger des céréales, popcorn, n'apprécie pas, mais de temps en temps, ça va.
Nous regarde avec beaucoup de. Je sais pas, les circonstances.
Je comprendrai jamais l'intérêt. Du maïs normal, il n'y a pas de problème. Des popcorn, non.
Bon, en tout cas, on terminera là-dessus. Aurélien Duhart, merci infiniment d'être passé par ici. C'était un plaisir d'avoir ton analyse par rapport à ce que toi t'as vécu, aussi par rapport à ce qu'on va entre Gann et Pereira. Si on veut te retrouver, si on veut te contacter, ça se passe principalement sur Instagram.
Sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, tapez mon nom pour tout ce qui est accompagnement personnel. J'accompagne pas que les athlètes. Hein. Ouais. Les athlètes, c'est à peine 20% de ma clientèle. Ma clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde qui fait face à des défis et des épreuves que j'accompagne. Là, je suis content. J'interviens aussi cet été à la prison de Bois d'Arcy. J'interviens beaucoup sur les gestions de phénomènes de violence et préparer les détenus à la sortie. Trouvez-moi pour les conférences. Il suffit de taper mon nom. Si, quand l'élève est prêt, le professeur apparaît. Donc, quand on aura besoin de moi, je serai là.
On mettra tout de toute façon en commentaire.
Et voilà, l'un des mantras d'Aurélien Duhart, poète Anachama, et bien Aurélien Duhart, à ce mantra qu'il vient de nous réciter. Merci en tout cas, Aurélien, d'être passé par
merci
ici.
Beaucoup, merci beaucoup, Aurélien.
Merci à toi, comme d'habitude. Et merci à la régie. Merci à Nathan Rochefort qui était à côté de nous aussi. Et merci à toutes et à tous de nous être fidèles. On se retrouve très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao.
Ciao.
RMC Fighters Club.